Warning. Si vous n'avez pas encore vu le film qui suit et que vous ne voulez pas que l'intrigue vous soit dévoilée, arrêtez ce podcast maintenant. On vous aura prévenu.
It is by my hand. You will rise from the ashes of this world.
Уж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни?
Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle.
The robots are coming.
I want more life, fucker.
24 secondes.
Nous sommes le 19 janvier 2016. Bonne année et bienvenue au 40e épisode de 24 quarts de seconde.
Ouh, 40e.
Ouais, 40e. Wow. Pour la nouvelle année, c'est cool. On avance doucement, mais on avance. Le podcast des mordus de cinéma de science-fiction, lors duquel nous repassons à travers des films et séries que nous avons aimés ou pas. Je suis Nicolas Petzilas et avec moi Marie-Louise Gariepi.
Salut.
Et également avec nous aujourd'hui, on le présente plus. Il est un des rois du podcast.
Oh boy.
Au Québec.
Oh boy.
Animateur des mystérieux étonnants. Juste ça, c'est bon. On n'a plus qu'à se prosterner.
Pas pire.
Prosternons-nous.
Ah non, s'il vous plaît.
T'es un fan.
J'aime ça, je trouve ça cool, par contre. Merci pour l'invitation.
Donc,
et le fromage. Ils savent comment recevoir.
On sait quoi faire pour t'aider.
Ah oui. Se porter des morceaux de fromage de chez moi ici. Je vais être là.
Donc, bienvenue Benoît, ça me fait super plaisir de te retrouver. C'était pour, c'était quoi? C'était Star Trek?
Star Trek, le premier ou le deuxième?
Le deuxième.
Ça fait donc 2-3 ans, facile.
C'était une déception, ouais. Je me rappelle.
C'était pas...
Moi, j'avais aimé ça. Je me souviens que vous autres aviez moins aimé ça.
Moi, je suis une fan du Star Trek original. Ouais.
Pour retrouver tous les épisodes du podcast, c'est sur notre site internet 24quarks avec un S.com et sur iTunes. Et si l'envie vous prend de réagir à la discussion, commenter tout ça, nous faire des suggestions, vous pouvez nous contacter par courriel à 24quarks@gmail.com, puis par Twitter à 24quarks et puis à la page Facebook. Voilà. Du 5 au 11 février prochain aura lieu le Festival des films numériques Cinéplex dans une sélection de leurs salles à travers le Canada et notamment au Cinéplex Banque Scotia à Montréal. D'ailleurs, c'est la seule salle au Québec, ce qui est un peu décevant, mais voilà.
Et, moi, c'est la Banque Scotia là, qui est un bon cinéma.
Oui, non, mais franchement, il n'y a pas une salle à Québec qui le fait.
Ouais,
c'est comme...
Une place à Québec.
Il y a une place au Québec, à Montréal, c'est tout.
Donc, pour toute la province. Lisez les autobus.
Donc, c'est ça. Surtout en Ontario. En Ontario, il y en a comme une liste comme ça. Donc, il y a une belle brochette de films qui sera présentée, dont quelques films de science-fiction comme Star Trek 2, The Wrath of Khan, Serenity, hein?
Le deuxième, le vrai 2.
J'ai comme mélangé là.
Le vrai 2, pas le 2-2.
L'inspiration de Into Darkness. Into Darkness est aussi dans la liste d'ailleurs, je crois.
Mais oui, je pense qu'il est là.
Ouais. Et puis il y a Serenity, Inception, enfin il y en a quelques-uns.
Il y a plusieurs films dont on a déjà parlé.
Oui, absolument. Et la liste de films donc, est disponible sur le site internet Cineplex, cineplex.com/événements/digitalfilmfest. Enfin bref, c'est facile à trouver. Et puis, particulièrement, Mad Max 2 et Mad Max Fury Road qui nous ont inspiré, enfin qui en tout cas nous ont donné le goût de revisiter la franchise, enfin en tout cas le dernier là.
Mm-hmm. Ouais.
Parce que là, c'est bien, vous pouvez aller les voir au cinéma, puis après que c'est le podcast. C'est ça l'idée.
Convergence.
Ça va nous rappeler nos temps sur Rialto.
Donc voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, Mad Max. La franchise Mad Max Fury Road, plutôt, on va dire.
Surtout Fury Road,
ouais.
J'espère, parce que j'ai pas vu le 2. J'ai mal compris, je suis désolé.
Honte à toi.
Ouais, je sais.
Non, mais c'est pas. Tu sais, c'est comme. Inévitablement, tu fais des liens avec les autres, mais je veux dire, c'est quand même. Enfin, le dernier est suffisamment.
Il est monstre, en fait, cette
important
année.
pour en parler.
On peut dire que c'est un film qui a beaucoup, beaucoup de choses à dire, donc on va pas s'ennuyer dans ce podcast.
En plus, on a appris. C'était cette semaine ou la semaine passée, je sais plus, les nominations pour les.
10 nominations pour Fury Road, dont 2 nominations pour George Miller pour meilleure réalisation et meilleur long métrage.
C'est énorme, quoi. Un Mad Max aux Oscars, c'est énorme.
Il est presque producteur aussi.
Ouais, exact. Ouais, okay. Ouais. C'est son bébé, là, littéralement.
Ouais. Ouais. Ça tombe très bien.
J'oublie tout le temps que le producteur gagne le score du nouveau film, du meilleur film. Ça a toujours été comme ça tout le temps.
Oui, toujours été. Toujours. Depuis que je fais la production, je peux te dire
là,
que c'est mérité. Je sais que c'est mérité. Le pire, c'est que j'ai souvent pensé, comme les gens étaient toujours, pourquoi c'est le producteur qui gagne le gars? C'est pas... Mais là, moi, maintenant, là, c'est comme, je peux te le dire, pourquoi?
Ben, y a-t-il un Oscar de meilleur producteur?
Il y a un Oscar de meilleur réalisateur.
Il n'y a pas de meilleur producteur, mais c'est le meilleur film.
Ouais, okay,
meilleur
okay, okay,
donc, c'est ça.
Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que le producteur va aller recevoir l'Oscar du meilleur film, mais tu sais, souvent,
pour tout le monde
monte sur le truc, puis... Whatever.
Donc Mad Max Fury Road, c'est ça. Et avant de commencer, tu nous as trouvé un petit.
Alors j'ai trouvé un petit vin d'Australie, évidemment.
Qui
s'appelle The Laughing Magpie. C'est un Shiraz de 2010, quand même. Et puis, alors je veux juste dire en arrière ce qui m'a inspirée. Donc avec sa personnalité flamboyante, Chester Osborne, le vigneron propriétaire de Arenberg, maîtrise parfaitement l'art d'être différent. Celui qu'on qualifie souvent de rockstar du vin jouit d'une popularité internationale qui n'a d'égal que la réputation d'excellence et qualité d'originalité des vins qu'il produit.
Ouais, la rockstar du vin. Okay.
Donc, je trouvais que ça fitait bien. L'art d'être différent, flamboyant, rockstar du vin, australien.
Il fait pousser ses vignobles sur des cadavres, c'est ça?
si t'es pas content, on peut toujours prendre une transition sanguine.
Non, il y a du vin et du fromage. Je n'en vais pas tant que c'est pas fini.
Donc voilà, évidemment, bouchon qu'on dévisse, hein, parce que c'est un vin australien.
Australien.
C'est ça. Rapproche-la pas.
Non?
Non, parce que c'était mieux.
Moi, j'ai l'habitude de me servir du vin à moi-même.
Ben, pendant que tu sers le vin, je vais faire... avant de commencer, je voulais faire une ou deux petites plugs. Tu sais, j'aime bien faire une ou deux petites plugs comme ça avant qu'on commence. C'était juste pour signaler deux choses. D'une part, il y a la série animée Star Wars Rebels qui revient après...
Moi, je suis sur Clone Wars et j'ai tellement hâte d'avoir fini pour me rendre à Rebels.
Ah, c'est bon. Moi, j'ai pas vu Clone Wars, mais il paraît que c'est tellement
bon. Clone Wars est la série qui m'a fait aimer Anakin. Personnage dont j'en ai absolument rien à foutre, sinon, mais la série te fait aimer, et c'est d'où le fait qu'il devient Darth Vader, ça devient d'autant plus tragique, parce que t'aimes le personnage.
Je sais que c'est Dave Filoni qui produit cette série-là aussi.
Je sais pas le nom du producteur, je me suis pas renseigné autour de la série, j'ai commencé à écouter ça, tu sais, durant Noël, des fois tu garoches sur quelque chose, là. Puis j'ai commencé, puis j'ai jamais arrêté, et ça va...
C'est un peu le même style d'animation aussi, puis moi en tout cas, j'ai jamais vu Clone Wars, mais j'ai entendu que du bien, puis là tu confirmes en plus le truc. Mais là, Star Wars Rebels, j'adore. En plus, c'est plus proche de la trilogie originale. Ouais, c'est ça. Donc, t'as vraiment plein de liens avec. T'as des liens avec l'ancienne, mais surtout, tu sais, au niveau du design, au niveau de plein de trucs, t'as plein de, enfin, du design des vaisseaux et des choses comme ça.
Ouais.
T'as plein de liens avec la trilogie originale, donc c'est
même
cool.
Basé beaucoup sur ce que le concept original des concept art à l'époque avait fait. Ouais, donc, le design des Stormtroopers est plus rond, plus gros. La même chose pour les vaisseaux. Et ils ont pris cette idée-là, bon, on va l'adapter directement. Visuellement. Donc, c'est comme une espèce de.
Mais ça,
à cheval,
c'est animé,
ça,
c'est ça?
C'est une série animée.
Ouais.
Puis, franchement, c'est une bonne idée. J'en ai parlé plusieurs fois parce que je m'en lasse pas parce que c'est super fun, quoi. Vraiment, c'est génial, c'est fun. C'est
pour
cool,
commencer
c'est excitant,
Clone Wars. Il y a un dessin animé qui avait été créé par les créateurs de Samurai Jack. Avant Clone Wars en animation de synthèse.
C'est l'animation 2D, ça.
Ouais, c'est deux saisons.
Ouais.
C'est plus considéré canon, fan de Star Wars ici. Fait que c'est plus canon, mais tu vois qu'après, quand ils ont fait Clone Wars en animation de synthèse, ils sont fortement inspirés du design de ce qui avait été fait par ce type-là, dont le nom m'échappe. C'est super bon. Artistiquement, c'est vraiment intéressant. Puis c'est très, très court. C'est des épisodes de même pas 5 minutes. Là.
Ah ouais?
Parce qu'à l'origine, c'était une web-série qui est devenue un peu plus long après, pour la deuxième saison. Et après, ils se sont lancés dans Clone Wars. Mais c'est essentiel. Puis, tu sais, tu vas sur YouTube, puis ils sont tous là.
OK.
Je
ne le dis à personne.
Non.
Mais c'est cool. Je ne savais pas ça. C'est cool. C'est vraiment bien. Enfin, en tout cas, là, Star Wars Rebels, saison 2, la deuxième partie de la saison, il y a eu un break, là, après la première partie. Et puis, c'est ça. Il y a une bande-annonce qui est super excitante.
T'as vu le teaser, hein?
C'est trop bon.
Petit lien avec, on dirait aussi, le dernier film. Hein?
Oui.
Au niveau de quelque chose que je ne dirais pas c'est quoi, mais...
Oui.
Je le pointe aussi.
Ouais. Il y a un petit clin d'œil aussi. Donc c'est ça. Et puis sinon, il y a une série qui a commencé sur Sci-Fi que j'ai commencé à écouter et qui m'intrigue, qui s'appelle The Expanse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler.
J'ai beaucoup entendu parler, mais malheureusement, je n'ai pas encore écouté. Mais le monde n'arrête pas de me gosser avec ça.
Moi, j'ai vu 2 épisodes et demi.
C'est
là.
Quoi la prémisse?
Écoute, c'est adapté de la série de romans de James S. A. Corey. Et en fait, c'est comme il y a comme 3 histoires parallèles. Pour l'instant, j'en suis au stade. Je suppose que ça va se rejoindre quelque part. Mais j'en suis au stade où en fait, tu découvres 3 histoires parallèles. Ça se passe dans genre dans 200 ans, dans un système solaire qui a été colonisé. Et il y a des tensions entre la Terre et Mars, et puis des habitants de la ceinture d'astéroïdes,
les Belters,
comme ils appellent ça.
Non, ça c'est un bon concept.
Et donc, t'as comme 3 histoires qui se passent. T'as d'une part un convoyeur terrien qui est en mission, puis qui répond à un appel de détresse, puis il se trouve pris dans la merde. Ça commence à faire monter des tensions avec les Martiens. De l'autre côté, t'as un enquêteur qui est joué par Thomas Jane.
Thomas Jane fait de la télé en ce moment.
Ouais.
Waouh. Ok.
C'est un acteur que j'aime bien. Ça fait plaisir de le revoir. Puis lui, il joue un espèce de détective, tu sais, du futur là, qui doit retrouver une personne qui a disparu, une jeune personne qui a l'air assez influente qui a disparu. Et ça se passe.
Luke Skywalker.
Ça se passe sur une microplanète de la ceinture d'astéroïdes. Et puis t'as une femme qui travaille comme aux Nations Unies ou aux Planètes Unies, ou je sais plus comment ça s'appelle, c'est le truc. Puis elle aussi qui essaye de faire qu'il y ait pas un gros conflit qui éclate entre Mars, la Terre, machin, etc. Donc c'est intriguant. Au début t'es là, t'sais, wow, ça a l'air compliqué cette affaire, wow, c'est trop de trucs, machin. Hein. Puis en fait plus ça va, plus je trouve ça
cool. Est-ce que c'est de la science-fiction dure ou c'est du space opera comme pour la Star Wars?
Je dirais que c'est un mélange. C'est plus, ça s'oriente plus vers la science-fiction que Star Wars, qui est vraiment du gros.
Ouais, c'est du fantasy.
Quand t'es en 200 ans plus tard, puis que t'es dans le système solaire, t'es souvent pas loin du hard sci-fi parce que t'es à la recherche de. Ouais. T'sais, sinon tu mets pas ça sur la Terre.
T'es pas encore dans un autre système solaire. Là. T'es quand même relativement proche.
C'est ça. T'es la civilisation de type 1. Je crois.
Je sais plus. Y a-tu une charte par rapport à ça?
Ouais, non, je pense que c'est quand t'es capable de sortir de ta. Je pense que t'es juste zéro. Nous, je pense qu'on est en dessous zéro.
Nous autres, on est vraiment dans le minus.
Non, tu n'as pas entendu parler des saisons type 1, 2, 3, 4, 5.
Non,
oui, c'est.
Je sais que c'est une charte.
Et voyons, 2001, l'auteur du. Arthur C. Clarke.
C'est lui qui a établi ça.
Oui, avec d'autres gens de science-fiction. Puis je me demande si Asimov n'était pas là-dedans. Là, je parle pas à travers mon chapeau. Là, il me semble que C. Clarke était là-dedans. Puis c'est vraiment l'idée que. Parce que tout le concept de 2001, c'est ça. C'est C. Clarke derrière ça, parce que la civilisation extraterrestre là, qui vient avec le monolithe,
pour
ceux qui n'ont pas compris
spoilers.
L'histoire, c'est des extraterrestres. C'est dans le premier plan du film.
Quoi?
ça serait comme genre de civilisation de type 3.
OK. Que eux autres, ils ont maîtrisé le voyage, je dirais, espace-temps presque.
Ça a rapport avec est-ce que tu es capable de maîtriser l'énergie de ton solaire, en fait. C'est tout au niveau de l'énergie.
OK.
Donc, si tu maîtrises l'énergie de ton solaire, t'es civilisation de type 1. Donc là, tu peux explorer ton système solaire. Mais mettons que ton soleil explose, là.
Ouais, t'es dans marde.
T'es dans marde, tu sais. Donc, là, faut que t'aides à la civilisation de type 2. Ou est-ce que là, tu vas être capable de sortir de ton système solaire? Et ainsi de suite, parce qu'il y a d'autres galaxies. Mm-hmm. Hein? Tu vas sortir de ta galaxie. Puis à un moment donné, tu deviens quelque chose comme une espèce de wobbly, wobblop qui se promène dans l'univers. Puis t'es comme.
Évolution, là. Au niveau du corps. Là, on dépasse le corps, là.
Ouais,
c'est ça.
Oui, t'es dans quelque chose. Ouais, ben, je pense que quand t'es rendu à la civilisation de type 2, tu dois être assez loin du corps parce que pour se promener d'un système solaire à l'autre. En tout cas, l'être humain, il est moyennement bien adapté.
Oui, on est un peu merdique à ce niveau-là. Hein. On est très attaché à notre temps.
ma théorie, c'est que si on explore l'univers, ce ne sera pas dans.
Non, on ne sera pas là-dedans.
Non, on ne sera pas là-dedans.
On va aller loin, mais pas si loin que ça.
Oui, c'est ça. Donc, bref.
C'est fou, par contre, quand tu écoutes 2001, quand tu es jeune, moi, je me souviens, je l'avais écouté à genre 12 ans et j'étais. Tu sais, la fin, là. J'étais complètement mélangé. J'avais aucune idée c'était quoi le bébé.
Ben, je pense que
le bébé à la fin.
T'as arrêté d'être mélangé un jour?
J'ai arrêté d'être mélangé un jour pour ça. Parce que le roman en donne plus de détails par rapport à ce qui se passe, là, la métamorphose. Ouais. Mais à partir du moment où l'astronaute touche au monolithe puis rentre dans son espèce de trip d'acide, là, jeune, je me suis fait rien compris. Mais t'as même, t'as presque peur. C'est vraiment, c'est, oui, drôle, ah, c'est une autre expérience, en tout cas. Ah. Mais c'est un bon film. Hein.
Donc, on était là pour parler de...
C'est quoi, déjà?
De fromage.
Là, ça, allez, ça, ça va pas bien, là, parce que ta liste de...
Non, non, non,
de
mais c'est bon, là. Moi, ça s'est arrêté là, mais okay. Tu plugs. Donc,
ouais,
ça,
mais moi,
juste...
je voulais en faire une aussi, juste mentionner pour les fans de Herzog, j'ai découvert aujourd'hui. Donc, Herzog, qui est ce cinéaste qui faisait des films avec Klaus Kinski. Werner Herzog, okay, qui faisait des films avec Klaus Kinski des années 60. Réalisateur Armand, qui a fait des films vraiment fuckés en Amazonie puis tout le kit. Puis qui a jamais réussi à faire des films de fiction qui étaient bons sans Klaus Kinski, qui est complètement fou. Donc, du coup, il s'est comme recyclé au documentaire dans les dernières années. Il a fait d'excellents documentaires dans ce fameux documentaire avec le gars qui est le Grizzly Man, là, je sais pas si vous
oui, avez... Oui, oui,
excellent. C'était excellent.
Je l'ai pas écouté, mais...
Ah, c'est troublant. C'est tellement troublant, ce documentaire-là.
Il est mort avec son grizzly, hein. Ah? Un grizzly qui l'a bouffé, finalement.
Ouais, ouais, ouais.
C'était bon, par exemple.
Ouais. Et donc, là, il fait un documentaire, puis ça va être à Sundance. Donc, j'invite les gens à surveiller ça sur l'intelligence artificielle.
Oh, c'est ça qui est intéressant.
Et c'était très intéressant parce que juste dans la bande-annonce, il y avait des. Je vais la mettre là, sur le Facebook. Je voulais pas. Tu venais de mettre la photo de Fury Road. Là, je me suis dit, je vais pas. Je vais plugger un documentaire de ça là-dedans. J'attends une couple de jours. Mais donc, il y avait dans la bande-annonce un gars qui disait « Ah, peut-être qu'il y a des intelligences artificielles qui naissent d'Internet. Je peux pas vous confirmer que ça existe pas déjà. » Mais tu sais, la façon dont c'était dit, c'était comme « Hein? »
Comme s'il y avait déjà un système neuronal
oui,
en
comme s'il y avait déjà une intelligence qui était en train d'exister. Puis il dit « Elle va peut-être pas se manifester, tu sais. Il faut qu'elle ait une raison
de
se manifester.
Moi, si j'étais elle, là, dans quoi je tremble? Le porn, la guerre, les nouvelles. Bon, on va rester tranquille.
En tout cas, bref, ça avait l'air vraiment fascinant. Puis quand ouais, c'est quelqu'un d'intelligent comme Herzog qui attaque un sujet comme ça, ben on a hâte de voir ça. Moi, j'étais tout excité.
Je pense que
ça.
De notre vivant, on va l'avoir, la première intelligence artificielle. Tu sais, c'est comme. C'est pas, on n'est pas si loin que ça, là. C'est un balbutiement, mais quand même. Là.
C'est comme... Moi, c'est comme la fusion nucléaire. Ça fait des années qu'on la promet, mais on n'est sont jamais capables de la faire, tu sais. Donc, à un moment donné, il y a des choses qui ont l'air faciles. Puis j'écoutais un podcast justement sur l'intelligence artificielle, puis c'était super drôle parce qu'en fait, il y a des choses que nous, on fait bien que pour un robot, c'est impossible. Comme il y avait la machine qui pliait du linge, là. Puis c'était ridiculement difficile de plier du linge, tu sais.
On est une machine très...
Il expliquait toute la difficulté, puis comment on pensait, parce que ça fait longtemps là, qu'on le promet, la fameuse intelligence artificielle, puis le Deep Blue, machin, qui paye, mais c'est vraiment tout ce qui est computationnel.
Oui, oui, oui.
La machine nous dépasse déjà. Il ne faut pas absolument, se leurrer, il n'y a aucun doute. Là,
elle t'sais. Fait ses impôts beaucoup plus rapidement que moi. Là,
moi, je n'ai pas beaucoup de Excel puis d'une simple calculatrice pour des choses très simples. Tu sais. Donc, ça pour dire que... Mais il y a comme...
La conscience.
Oui, c'est ça. La vraie machine, comme dans Her, là, l'espèce de conscience.
L'avez-vous parlé au podcast?
Ouais.
Moi, j'avais adoré ça.
C'est un magnifique. Mes films préférés de sci-fi. Ouais. Magnifique.
À ne pas écouter En peine d'amour, ce qui m'est arrivé. J'étais pas mal décrit, ça fait.
Oh, non.
C'était pas cool.
Ah, il y avait de quoi, j'avoue. C'est tellement magnifique. Oh, c'est plein de sensibilité, ce film-là.
C'est faire une relation, tu fais, mon Dieu, tu sais... Oh. Bon, ben c'est fini.
As-tu essayé de parler avec Siri après ça?
Non, pas ce genre-là, mais la voix de Scarlett Johansson dans ce film-là en est pour beaucoup. Hein.
Ouais.
Casting parfait. Bien, ben on va revenir à notre Mad Max.
Ouais.
Alors, en général, je commence par des petits résumés. Là, je m'étais carrément fait des résumés pour chacun des films. Je sais pas si on va repasser à travers tout, mais.
Ben, tu as fait le 2 puis le.
Histoire
le
que. Non, mais on peut. Je peux vite les faire rapidement, c'est pas très long, là. Okay. Histoire que, comme ça, ça nous rafraîchit un peu la mémoire sur.
Sur l'anthologie.
Donc, le tout premier Mad Max en 1979, tout commence dans un futur dystopique où le pétrole est une denrée rare et des hordes motorisées terrorisent la population sur les routes et dans les campagnes. Max Rockatansky, un flic à l'efficacité redoutable au sein de la force spéciale MFP, le Main Force Patrol, tue lors d'une course-poursuite le frère du chef d'un gang de dangereux motards qui va par la suite s'en prendre à ses amis et à sa famille et pousser Max à basculer dans la folie meurtrière. Voilà, ça en gros, c'était le tout premier, celui qui a lancé le...
Que j'ai vaguement vu, mais je me rappelle pas.
Tu te rappelles pas, la première?
Non, je l'ai vu, mais je me rappelle pas de ce film-là, c'est bizarre. Ah,
c'est pas du tout la franchise que c'est devenu après.
Non,
c'est vraiment un autre film.
C'est vraiment à partir du Mad Max 2, titre américain The Road Warrior. Dans un futur non défini, j'ai trouvé ça.
J'aime ça, moi.
Ouais, j'ai trouvé ça, c'était très drôle. Les réserves de pétrole sont épuisées et le chaos règne. Je sais plus si c'est à ce moment-là où il parle d'une guerre, qu'il y a eu une guerre, ou si c'est après, avant, entre ça et Thunderdome. Je sais plus, mais je sais qu'il parle d'une guerre nucléaire.
Il est arrivé quelque chose, un cataclysme.
Et donc, c'est ça, les réserves de pétrole sont épuisées, le chaos règne sur le monde et une communauté autonome exploite une réserve de pétrole et doit se défendre contre une bande de pillards. Max, ancien policier de la route, marqué par le traumatisme de la perte de sa famille, vivant désormais en marge avec pour seul compagnon son chien, sillonnant les routes de ce pays livré à la violence et à la loi du plus fort au volant de son bolide, redécouvre sa part d'humanité en décidant d'aider cette communauté.
C'est fou, on dirait Waterworld. Quand tu pourrais enlever le titre, décrire, tu sais exactement ce que tu viens de dire, c'est Waterworld. Ben,
ouais, c'est bien meilleur que Waterworld.
Oui, oui, on s'entend, on s'entend.
Non, mais le thème, mais la structure, l'histoire, où, c'est un peu l'archétype du western.
Ouais, c'est le mythe classique du gars qui retrouve son humanité.
Le cowboy solitaire, tu sais, qui vient défendre
c'est un western,
le petit gros machin.
Aucun doute.
Le fort, il faut défendre le fort contre les Indiens ou les Mexicains ou Dieu sait quoi, tu sais. Voilà. Ensuite, Mad Max Beyond Thunderdome, celui que j'ai pas revu depuis
Tina Turner.
Moi, je l'ai même pas vu, celui-là.
Donc, en poursuivant des voleurs qui lui ont pris ses biens, Max se retrouve à Bartertown, où Anti-Entity, joué par Tina Turner, organise un début de civilisation en remplaçant le vol par le troc. Mais le méthane qui alimente la ville et sa production sont contrôlés par Master Blaster, une espèce de grand géant avec un petit nain sur sa tête. Le petit nain étant le cerveau et le géant étant le
muscle. Ce genre de mutant ou...
Non, c'est deux personnes.
Ok, il y a vraiment un nain
c'est
sur
le géant. C'est le géant un peu épais.
Ouais, voilà, exactement.
Mais qui est fort.
Ok.
Avec le nabo.
De Yoda, c'est
ok. Le nabo qui a le cerveau, tu sais.
Ouais, ok, je vois genre.
Et donc, Entity est en guéguerre interne avec Master Blaster. Elle engage Max pour le provoquer en duel et l'affronter dans le Thunderdome. Et puis, on arrive à Mad Max Fury Road. Donc, notre Max, qui erre seul au volant de son bolide dans un monde dévasté, où les clans cannibales, les sectes, les gangs de motards s'affrontent dans les déserts sans fin pour l'eau et le pétrole. Et un de ces clans qui est aux ordres de Immortan Joe, l'une de ses plus fidèles partisanes, Imperator Furiosa, joué par Charlize. Le trahit et s'enfuit avec un bien d'une importance capitale pour le chef de guerre, ses épouses, un groupe de jeunes femmes lui servant d'esclaves et de pondeuses. Et Immortan Joe se lance à la poursuite de Furiosa avec toute son armée motorisée à travers le désert. Max, capturé par Nux, l'un des Warboys de Immortan Joe, est embarqué malgré lui dans cette traque et pour survivre à cet enfer devra s'associer à Furiosa. Voilà, en gros... D'où c'est venu et où ça nous mène toute cette affaire de Mad Max. Donc
moi j'ai vu le premier.
T'as vu le premier et le dernier.
J'ai vu Fury Road, mais j'ai vu Fury Road en premier. Je n'avais jamais vu aucun de Mad Max.
Ok.
Et justement quand j'ai commencé à écouter le premier film, je me suis demandé si j'avais pris le bon film dans la bibliothèque de mon coloc, parce que c'est pas du tout ce que moi j'ai vu après, tant au niveau de la production, mais au niveau de l'histoire, parce qu'il y a vraiment un pont entre le premier et le deuxième, de ce que j'ai compris. Ah. Alors ouais, c'est ça. Ouais, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir connu ce que c'est supposé être l'expérience Mad Max avec le quatrième, dans le sens que s'il y a un mythe originel, je l'ai connu avec celui-ci. Avec le deuxième, qu'on me dit qu'il est très similaire aussi.
Ce qui est paradoxal, c'est que le premier a été pendant longtemps le film qui a fait le plus de ventes au cinéma. T'sais, il a tenu le record là, du top pendant 10 ans, je pense.
Le premier, ça a été un phénomène.
C'était un phénomène planétaire.
Ça a été un truc fou. Là. C'est ce que je te disais juste avant qu'on commence tantôt, là. C'est qu'en Europe, ça a été interdit en salle pendant 3 ans.
Ça a été interdit à cause des scènes
de violence.
Le premier?
Le premier, oui. Ouais. Et pourtant, tu disais, il y avait la BD européenne qui était...
En fait, c'est ça, c'est que... Ça, pour rentrer dans l'anthologie, mais tu veux-tu qu'on finisse? Parce que c'est sûr que ça, je veux en parler, là.
OK, d'accord.
Mais parce que d'habitude, on commence toujours par se dire quand est-ce qu'on a vu le film, la première
fois. Donc, le 4, tu l'as vu à la sortie,
je suppose? Moi, je l'ai vu à la sortie. J'étais dans un mood, je pense, parfait pour ça. Je m'attendais à rien, j'avais rien vu, j'avais pas vraiment suivi l'histoire.
Ah mon Dieu, t'étais l'opposé de moi.
J'avais vu la bande-annonce avec les fameux tambours, là.
Ah ouais, mais
la pièce musicale que je me disais, mon Dieu, ok. Déjà en partant, si un trailer m'amène par là, on y a porté une certaine attention. Mais sinon, j'avais aucune idée dans quoi j'embarquais, j'avais même pas l'histoire. J'étais sous le cul.
Parce que le premier trailer était hallucinant.
Oui, il était super
bon. Mais t'avais vu le trailer, c'est quand même...
Oui, j'avais vu le trailer, mais j'avais pas suivi la production du film. Je savais même pas essentiellement qui était dedans. Je savais que Charlize Theron était là, mais je savais même pas que... J'allais dire Tatum. C'est pas Charlize Tatum, mais voyons.
John Hardy.
Merci. Il était dedans. C'est vraiment deux acteurs complètement différents. Puis après, bon, j'ai commencé à me taper le premier. Je l'ai fini. Voulant retrouver un peu ce que j'avais rencontré dans le quatrième film. Je ne l'ai pas retrouvé parce que justement, c'est pas du tout la même franchise à ce stade-là. Mais mis à part ça, je n'ai pas vu le 2 et le 3. On m'a dit que le 3 était plus slapstick un peu.
Ouais,
parce que le 2 ressemblait au 4.
Enfin, on va en parler certainement, mais il s'est adouci avec le 3. Il ne l'a pas réalisé tout seul. Il y avait un autre, un autre George qui l'a réalisé avec lui. Puis tu sens que... Je sais pas s'il se détachait un peu du film parce qu'il avait toujours le projet d'en faire un quatrième. Ouais. Mais en tout cas, ouais, le 3, c'était comme adouci. Je sais pas si c'était pour pouvoir devenir plus mainstream.
Toi, t'as vu quand les Mad Max? T'as-tu vu dans le temps ou
Alors le premier, je pense que je crois que le premier est sorti en même temps que le deuxième au cinéma, plus ou moins à la même époque.
Ben, il est sorti en 79.
La date de sortie aux États-Unis ou en Australie, en tout cas, c'est 79. Il n'est pas arrivé avant
81.
Ouais, le deuxième est en 81, mais c'est ça. Le premier n'est pas arrivé en Europe avant 81. Les deux sont sortis à peu près en même temps. C'est ça.
Okay. Okay. En Europe.
Fait que, ouais. Et il ne me semble pas les avoir vus au cinéma. Je pense que j'ai vu tout ça, par la suite en vidéo. J'ai dû voir ça en 82 ou 3 quand c'est arrivé en vidéo, en bonne vieille VHS.
Puis tu as regardé quel souvenir?
Ben, c'était étonnant, mais peut-être que depuis, on avait commencé à voir des choses un peu plus spectaculaires au niveau d'action dans des films américains. Mais je me rappelle que la manière dont la violence était filmée, dont les courses-poursuites étaient filmées, ça m'avait halluciné. Quoi. Mm-hmm. Il y a une espèce de folie, tu sais, à chaque fois que tu as une poursuite ou un truc
qui n'y avait pas.
Bon, dans le 2, c'est poussé, c'est poussé beaucoup plus loin. Ben, le premier, c'est vraiment une histoire de vengeance, finalement.
Ça prend un certain temps, même, je te dis, avant qu'il se passe quelque chose. Quand lui, il se fait, sa famille se fait attaquer, là, ça décolle, mais ça prend un certain temps. C'est même long, un peu.
Mais c'est ça, en fait, c'est vraiment. Tu sais, c'est à la fois un road movie, puis à la fois du. Du vigilante.
Il y a quelque chose d'intéressant dans c'est drôle parce que moi, le 1, je l'ai vu il y a comme. Avant de voir Fury Road, je l'ai vu il y a comme. Je pense que je l'ai vu quand on commençait à faire le podcast, en fait, en me disant qu'il fallait que je voie tous les films de science-fiction que j'avais pas vu encore. Tu sais, c'est probablement qu'une fois dans le podcast, j'avais dû dire que j'avais pas vu Mad Max, puis Olivier Pinix s'est retourné vers moi comme si j'étais.
Ton poing était du doigt.
Ça a comme eu un impact sur moi, puis là, je me suis dit, oui, il était sur Netflix, puis j'ai fait, il est sur Netflix, ce genre de situation. Puis c'est pas comme un film que je cherchais à voir, mais tu sais, Mad Max, tout le monde en parle, donc tu veux savoir c'est quoi. Puis je me rappelle avoir aimé ça. Mais je l'ai complètement oublié. Je suis pas quelqu'un qui oublie les films facilement.
Tu parles du premier, là.
Ouais, premier. Je suis pas quelqu'un qui oublie les films facilement parce que je suis quelqu'un qui est plutôt. Qui a une bonne mémoire. Puis, mais ça, j'essaie de me rappeler. Tu sais, vraiment, j'essaie de me rappeler. Puis là, quand j'ai revu. Moi, j'ai vu le 2 hier ou avant-hier. Là, genre, j'ai commencé à l'écouter très récemment. J'ai écouté en deux batchs, en fait. Donc.
Mais là, c'était la première fois que tu le voyais, le 2.
C'est la première fois que je le voyais. Okay. J'étais agréablement surpris du 2 parce que c'est un film qui est vraiment bizarre. Tu sais. Puis qu'il y a une esthétique. Donc, c'est sûr que si je me remettais dans l'époque, on parle de 81...
C'est vraiment ce film-là qui a créé l'esthétique Mad Max. Tel qu'on la retrouve.
J'ai l'impression que c'est ça.
Le masque, le personnage qui a un masque. Il y a le masque de Jason, mais Jason, c'est arrivé un peu avant. Là.
Peut-être, oui. Oui, parce que ça a commencé dans les années 70, Jason, je confonds avec Texas Chainsaw Massacre, excuse-moi.
Jason, c'est avant 81.
C'est les années 80.
Ah non, peut-être pas.
Il faudrait checker. C'est peut-être le début des années
80. Je suis pas bon, les dates. Regardez-moi pas.
Je vais checker ça pendant ce temps-là.
Check ça.
Comment ça s'appelait? Oh, Friday 13.
Friday the 13. Puis. Donc, c'est ça, tu as ce personnage-là, mais c'est dans le 2 qu'il y a le masque en passant.
L'esthétiste qui vient de la contrainte. On n'a pas d'argent. OK, on va prendre un char, mettre des pics dessus. C'est le futur.
C'est très bizarre parce que c'est comme...
Non, mais c'est vraiment le début des paysages désertiques. C'est vraiment l'imagerie Mad Max.
Ça se passe
les paysages désertiques.
T'es vraiment... T'es dans Western Australien. T'es en Australie. C'est le désert.
Il n'y a pas eu la peau. Il n'y a pas eu l'apocalypse dans le premier. C'est après le...
Oui, c'est ça.
Au début du 2, en fait, il te parle de... Tu vois les images un peu floues, un peu comme ça, d'événements. Il s'est passé quelque chose.
Dans le 2, t'es dans l'apocalypse. T'as juste quelques personnes qui sont comme... Les bandits, c'est des méchants.
C'est ça. Puis tout le monde se bat pour avoir la moindre goutte de pétrole. Dès que t'as une épave d'auto sur la route, tout le monde s'entretue pour essayer d'aller récupérer la dernière goutte.
C'est drôle de voir un film des années... Il y a quelque chose d'un peu bizarre, parce que si tu regardes Blade Runner aujourd'hui ou Alien, c'est encore hot. Là. Ouais. Je m'excuse, tu regardes ça, là, c'est hot, c'est comme intemporel. 2001, c'est intemporel. C'est magnifique. Oui, là, j'avoue que comme... Karen Young, elle a des méchantes épaules.
1981, Friday the 13th.
Donc, juste le premier?
Oui. Mmh.
Donc, c'est juste avant. C'est juste avant, parce que c'est dans le 2 que le masque.
Ouais.
OK, donc peut-être que Mad Max a expiré Friday the 13th. Allons voir dans les trivia.
Ah, peut-être.
Zeitgeist.
C'est inspiré, ouais.
Ça m'étonnerait pas. Tu sais, genre, ils ont dû voir le film. Puis c'est super drôle. Parce que tu as ce personnage avec cette espèce de masque de hockey-là qui est comme hyper musclé. Puis il a l'air de sortir tout droit d'un donjon BDSM gay.
Mais c'est ça. C'est une espèce de néo-punk SM. Ça, c'est vraiment aussi. Mad Max a créé ça. Tu vois, ces mecs habillés cuir, machin, des crêtes partout.
Les Mohawks, mais en 80, les Mohawks, ça commençait. Là,
ouais, c'était comme un synonyme de punk. Là.
Ouais. Oui, c'était vraiment les badass
les
qu'il y avait. Là. Ouais, ouais. T'avais pas, personne n'avait un Mohawk s'il n'était pas.
C'est quand tu penses à un connard à New York dans le métro à l'époque, il y avait un Mohawk, un coat de jeans, pas de manches, puis un ghetto blaster pour faire chier tout le monde. Aujourd'hui, ils n'ont pas de Mohawk, mais ils ont un iPhone, pas d'écouteurs. c'est très similaire.
Je pense que le ghetto blaster était plus efficace, par exemple.
Oui, mais il fait chier pareil, l'iPhone. J'ai l'impression que j'ai vu Mad Max sans le voir directement parce que ça de toute évidence fait sa marque parce que tu regardes des films comme The Bronx Warrior puis je veux dire il y en a plein d'autres que les noms m'échappent mais les films italiens post-apo de l'époque avec dans des pits de sable littéralement des pits de sable où on filmait ça parce qu'il y avait pas de décor puis on disait c'était le désert c'était le post-apo puis c'est
là, y
l'obsession
y
de la
bombe ça, des,
la guerre nucléaire là c'est je veux dire on en a vu plein là tu sais on prend un go-kart on met des pics dessus. Toi, t'es un gladiateur. Pourquoi je suis un gladiateur? Ah, t'es un gladiateur, man. T'as une chaîne, t'as un casque de hockey, t'as des épaulettes avec du métal. Puis
c'est probablement inspiré de. Tu sais, ça se peut que Mad Max ait amené.
Oui, je pense que c'est absolument.
Clairement.
Puis ce qui m'amène à ce que je voulais dire tantôt, c'est que Mad Max a été influencé par Metal Hurlant, la BD.
Le magazine.
Le magazine, carrément. Parce que. George Miller, j'allais dire Robert, George. Ça ressemble, George Robert, c'est pareil.
Bob Miller.
Donc, Bob adorait Metal Hurlant, puis il voulait que ce soit la gang de Metal Hurlant qui fasse la DA du film. Mm-hmm. Puis les gens de Metal Hurlant étaient comme, c'est qui cet Australien? Ils ont jamais voulu, ils voulaient rien savoir.
Ben, initialement, ça devait être complètement fou comme projet quand tu te présentais ça. OK, c'est un post-apo, c'est dans le désert australien. Le gars, il est fou. C'est comme, de quoi si tu t'en vas avec ça? T'sais, c'est comme aujourd'hui, tu penses à la prémisse de Star Wars, le premier Star Wars. OK, son père, c'est un robot. Il y a un gars, il y a un vaisseau. Son copilote, c'est un chien. mais il y a des magiciens aussi. C'est complètement débile. Fait que c'est ça, tu peux pas prévoir l'impact que ça a.
Non, mais c'est ça qui est drôle avec ce film de Mad Max. Tu essaies de décrire c'est quoi Mad Max ou une scène de. Tu sais, on te prend pour un fou, quoi.
Ouais.
J'essaie de parler à, je pense que j'essaie de parler à Céline, donc à ma femme, de lui raconter Mad Max parce qu'elle est plus tellement dans le trip. Elle a vu les autres, mais maintenant elle est plus tellement dans le trip.
Elle est pas violent, intéressée au prochain.
Film violent, machin, etc. Quoi que Mad Max, ça peut encore faire parce que c'est cette espèce de futur complètement fou.
Allez-moi ça.
Donc je pense qu'elle serait assez partante pour le voir, mais tu sais, t'essaies de lui décrire une scène. Ouais, alors. Il est attaché à l'avant d'un char avec un sur la face, puis il a genre.
Tu le sens que ça.
Et il y a le gars qui est en train de conduire l'auto qui est relié, tu sais, qui lui pompe son sang.
C'est fou, ça paraît.
Et pendant que t'as tout qui éclate autour, enfin, je veux dire, c'est complètement. On te prend pour un malade, quoi.
Puis ça a sûrement influencé des jeux vidéo comme Fallout. Je sais qu'à une certaine époque. Ben là, il y a eu un jeu vidéo de Fallout qui, malheureusement, est un. Une très bonne idée, mais il semblerait qu'il n'est pas aussi peaufiné qu'un jeu où tu as vraiment eu le temps de le développer parce qu'on s'entend, il y a un film qui est sorti, fait que les contraintes de temps sont
attends, là, tu parles de Fallout ou du jeu Mad Max?
Je parle du jeu de Mad Max.
Okay, ouais.
Sauf qu'il y a un lien entre Mad Max et Fallout, c'est qu'à une certaine époque, George Miller avait rencontré les gens de Fallout, la première compagnie qui avait travaillé sur le projet, pour développer un jeu de Mad Max. Et finalement, c'est devenu Fallout. Il y a une espèce d'inspiration entre
Deux, c'est clair. S'ils sont partis de l'univers de Mad Max.
Je pense qu'ils sont partis. En fait, ils sont partis de l'univers de Fallout. Miller est intéressé. C'est tombé à l'eau. Ils ont continué de développer Fallout. Mais tu vois, tu regardes ça. Le fameux mythe de la fin du monde, là, on y revient toujours, là, The Walking Dead, même de Snowpiercer quelque part, c'est pas les mêmes settings. Mais
c'est les
ressources. C'est les. OK, là, on n'a plus de hoodie, plus de téléphone, on n'a plus d'ordinateur, on n'a plus de loi. Fait qu'on revient à quoi? On est des tribus, même, on se tape sa gueule. C'est essentiel. On sait que demain, là, Si ça arrive, on commence à se taper sa gueule.
Moi, je pense que c'est... Ben, le pire, c'est que c'est drôle parce que moi, j'ai mon plan de fin du monde, tu sais.
On commence juste à en avoir un.
Non, moi, j'en ai un. Puis souvent, je rencontre des gens, je leur dis, OK, c'est quoi ton plan de fin du monde? Sais-tu qu'est-ce que tu vas faire? Puis là, les gens, ils sont complètement... J'ai aucune idée. Puis là, je l'attends, je dis, qu'est-ce que tu fais? La première chose que tu fais? Ah, là, les gens, ils pensent un petit peu. Puis là, ils me sortent des affaires. Puis ben, je vais à l'épicerie. Puis je dis, non. C'est comme ça. Ouais, mais... Tu t'en vas à l'épicerie.
Mais non, mais là, il faut pas que tu leur dises, là. Tu veux survivre. Aide-les pas.
Non, mais ils me trouvent tellement atroce après ça que je perds mes amis quand je leur explique c'est quoi mon plan de fin du monde.
Ça, c'est bon.
Il y a une BD qui existe qui s'appelle Winter World. Ça a été écrit un gars qui s'appelle Chuck Dixon. Je me souviens bien, le gars, il travaillait sur Batman pendant plein d'années. Je l'ai lu il y a comme une couple d'années de ça. Puis finalement, c'est Waterworld, mais vraiment, vraiment bon. C'est tout le temps la même. C'est un peu la même prémisse. Le loner qui a, tu sais, dans le cas de Mad Max, c'est son auto, mais lui, il y a une espèce de bateau qui vogue sur les vagues, sur la glace. Okay, il cherche des ressources. Il veut pas être aimé de personne. Il rencontre une fille qui finalement le fait changer de bord. Comme dans les westerns. Fait que, tu sais, ce mythe-là, on l'a ressorti, puis on le ressort, puis on le réadapte. Puis je trouve ça le fun. Je pense que c'est pour ça que quand c'est bien réussi, ça vient chercher les gens, parce que ça vient réveiller une petite carte sensible en nous. Là. Ce mythe-là, on le connaît. Là,
ouais. Moi, je trouve que le meilleur exemple de ça, un livre que j'ai jamais pu finir, un film que j'ai pas encore osé voir, c'est The Road.
Ouais, de Cormac McCarthy.
Ah, j'ai commencé à lire le livre. J'ai pas arrêté les livres parce que j'étais pas fasciné. J'étais juste pas capable.
En français ou en anglais?
En anglais.
Très bien, parce que la version française, elle fait... ouais.
Non, mais je lis
en... Pourquoi la version française, elle n'est pas finie?
Moi, habituellement, quand je peux, je lis en version originale.
Ouais.
Je sais pas pourquoi, va savoir, j'ai acheté celui en français.
Okay.
Je suis pas particulièrement... je me considère pas comme un gars bright, mais je suis pas stupide non plus. Il y a des mots là-dedans, des phrases complètes que je n'avais aucune idée de ce que l'auteur est en train de me dire.
Ah ouais.
Donc, j'ai l'impression qu'on a voulu vraiment adapter le style de Cormac McCarthy. Là, je te compare en lisant le livre, là, d'une certaine manière... Et je ne comprenais pas ce qui se passait.
Pourtant, le livre est très compréhensible.
En anglais peut-être, mais pas en français. En français, au niveau de la description, de ce qui, t'sais, on allait plus dans les détails, j'ai l'impression qu'on voulait aller dans les saveurs. Mais oui, c'est le retour. Il y a des clans. Ben, mm-hmm. C'est le combat pour les ressources.
Mais c'est parce que tout devient extrêmement dur parce que c'est un pape, son fils.
Ouais,
Puis le pire, c'est que moi, je me rappelle, au début du livre, que j'ai pas fini, c'est drôle que j'en parle, c'est que... Tu sais, on voit la mère qu'elle voulait suicider et tout. Puis là, toi, au début, t'es comme genre, mais pourquoi elle voulait suicider? C'est pas correct. Il a bien fait le père. Puis plus t'avances dans le film, plus tu comprends la mère. Puis t'es comme.
T'aurais fait la même chose de la mère.
C'est comme, tu sais, ouais, c'est comme genre, mais tuez-vous, là. T'es comme, pauvre enfant, c'est horrible, là. Il faut que je finisse de lire le livre, mais j'étais plus capable à un moment donné, là. C'était comme, pourtant, je suis pas quelqu'un de sensible tant que ça. Ben oui, là, mais tu sais, genre, comme je.
Quand t'es capable de justifier l'acte de quelqu'un qui met fin à ses vies dans un récit, tu vois, OK, c'est parce qu'il a réussi à me vendre que c'est vraiment horrible.
Oui.
Dans le livre, il y a comme des femmes qu'on prend, excuse-moi l'expression, mais qu'on engrosse, littéralement, parce qu'on prend les bébés et on les mange.
Ouais.
C'est la seule façon que les gens ont trouvé de survivre dans un monde où il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de légumes, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus rien. On n'explique pas pourquoi on n'est pas en train de se concentrer pourquoi c'est arrivé.
Non, mais
la situation de date.
Je pense que le bon film post-apocalyptique n'essaie pas d'expliquer l'apocalypse comme tel. Tout est dans le...
Et dans
le cauchemar de cette chose absurde qui serait qu'on perd tous nos repères de civilisation.
On perd notre humanité aussi.
Puis on perd notre humanité par conséquence. Qui, soit dit en passant, ce serait probablement pas le cas. Logiquement, s'il y a un apocalypse, les gens vont s'organiser comme ils faisaient avant. T'sais. Les gens
s'entretuent. Peut-être.
T'sais, je veux dire, les gens s'entretuent pas comme dans Mad Max à l'époque des débuts des temps. Là.
Pas au Québec, mais aux États-Unis. Il y a une couple de groupes qui vont faire « OK, on attendait ça depuis longtemps. »
Ils sont prêts, eux autres.
Ouais, ils sont prêts depuis longtemps. Eux autres, ils ont leur plan d'apocalypse. Hein.
Non, mais c'est parce qu'ultimement, les gens qui vont se regrouper vont être plus forts, comme d'habitude, que les gens qui vont essayer de tout contrôler.
Je suis en train de lire un livre parce qu'on explique justement... Ben, vous allez dire c'est une évidence, mais la coopération, c'est ancré en nous, et non seulement parce que bon, on se dit ben on aime nos amis, tout ça, notre famille, mais c'est ce qui nous a permis de survivre au fil des années. Les groupes qui coopéraient le mieux et ceux qui ont survécu le plus longtemps, qui ont été capables finalement de transmettre leurs gènes. Et ça revient à ça. Là, c'est ça. Tu survis en groupe. Ce qui est hot de Mad Max, c'est qu'il est tellement fucking badass. Et lui, il n'a pas besoin de personne. C'est pour ça que c'est le mâle alpha.
C'est ça. C'est
il n'a pas besoin de...
Ben, dans Fury Road, il est drôle de mâle alpha. Hein?
Moi, j'ai aimé son mâle alpha, ultimement. J'ai adoré la...
Il y a une femelle alpha à côté de lui, là.
Ben, mais c'est ça qui est malade. C'est ça que ces deux personnages n'ont pas besoin de communiquer pour se comprendre. Les autres se reconnaissent. T'sais, chacun savent que l'autre est un survivant, a sûrement dû faire des trucs horribles pour pouvoir survivre. Il y a comme une espèce de relation de qui est même pas adressée. Ils le disent pas, hein, ils parlent pas entre eux. Ils se comprennent. Ils n'ont pas besoin de s'expliquer. Puis ça, j'ai adoré ça. Ça répète un dude ou une fille, qu'importe, ça fonctionne. Les deux, ils se comprennent sans se parler. Ça, c'est l'aspect du film que j'ai aimé. Puis c'est particulièrement surprenant quand tu sais que sur le plateau de tournage, les deux n'étaient pas capables de se saquer.
Il y a eu des tensions entre les deux.
Il a fallu qu'ils se parlent à un certain moment. Ouais. Il paraît que c'était très difficile. Mais à l'écran, ça sort super bien. Je ne sais pas si la tension a nourri leur jeu d'acteur, mais en tout cas, ça donne
un bon ouais. En tout cas, le début, le début de leur rencontre, là, ça se passe pas facile. Ça a peut-être aidé le début.
C'est ça.
Moi, quand j'ai vu le film, okay, j'ai pas parlé de comment j'ai vu Fury Road. Okay. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un contexte important. Quand j'ai vu Fury Road, c'était le jour même qu'on lançait notre sociofinancement, notre campagne de sociofinancement pour
c'est
le
passager. Voilà,
puis on était allé prendre un verre, OK, avant d'aller voir le film, puis j'avais un petit peu trop bu parce que c'était comme too much. Parce que pour les gens qui n'ont jamais fait de campagne de sociofinancement, je vous avertis, c'est quelque chose. Puis là, je m'assois pour voir un film, puis en plus, moi, j'avais vu les trailers, là. J'avais vraiment une attente qui était ailleurs que le film que j'ai vu. Je trouvais magnifique le trailer, je trouvais magnifique les images. Puis je suis sortie de là, je veux dire, dans le contexte, j'avais un petit mal de tête, là, à la fin du film. Puis je suis sortie de là en me disant, c'est magnifique. Il faut absolument que je le revoie parce que je savais que mon cerveau était comme woubli-woubli, là, tu sais. J'étais pas saoule, là, mais j'étais juste comme pas là, là. J'avais de la misère, là, tu sais. Je suis sortie de là avec une déception et je l'ai écrit sur Facebook que j'ai une déception dans un truc.
Je sais que t'es en train de raconter une histoire puis ça m'implique, mais j'ai aucune idée de quoi tu parles pour vrai.
Non, j'ai écrit un truc. C'est toi qui avais écrit quelque chose. J'ai fait un commentaire comme quoi j'avais été déçue. Puis là, j'ai pas arrêté de recevoir plein de commentaires, là, des gens qui étaient fâchés. Tu t'en rappelles pas?
Dude, non.
Non.
Moi, du monde fâché sur Internet, là, c'est fait partie de mon quotidien.
C'est ça.
Mais parce que j'avais marqué de quoi sur Fury Road? Qu'est-ce que j'avais marqué?
Ouais, t'avais écrit que c'était magnifique, là, que t'avais adoré ça. Puis moi, j'avais juste écrit un truc que moi, ça m'avait déçu. C'était pas à mes attentes. Puis après ça, dans un commentaire à ton truc. Puis là, j'ai eu droit à plein de 1000 commentaires, pas juste toi, là, du monde, là, qui était fâché que j'ai pas aimé ça. Mais tu sais, c'était comme. Puis là, j'étais comme juste, ben. Puis c'est là que j'ai comme trouvé, j'ai comme, oh là, il faut vraiment que je revoie le film, là, j'ai l'impression. Tu sais, c'est comme j'ai comme eu le feeling, c'est comme quelqu'un qui va dire que Star Wars c'est poche.
T'es sûr c'était moi?
Ouais, c'était toi. Benoît, merci.
Là, tu dis que tu te bues, fait que peut-être que c'était un autre Benoît.
C'était pas le même sort.
Non,
je pense que c'était toi, je pense que tu confirmes que t'avais aimé.
Mais là, tu l'as revu depuis.
Ouais, je l'ai revu.
Puis t'as-tu plus aimé?
Je pense que le problème que j'ai avec ce film-là, c'est j'aurais aimé ça que ce soit un film plus complet au niveau de l'histoire, tu sais, parce que c'est un film d'action. C'est un film d'action pur. Mm-hmm.
Plus complet au niveau de l'histoire, qu'est-ce que tu veux dire par là?
Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui manque?
T'as pas le temps qu'il y a de l'histoire parce qu'il y a que de l'action, tu sais. Après 15 minutes, tu développes pas les personnages. Les personnages sont effleurés. Puis tu t'es bang, bang, bang constamment.
T'as pas été attaché par les personnages?
Ben non, t'es pas particulièrement attaché. Par exemple, OK, prends les filles qui se sauvent, OK? Mm-hmm. Ouais. C'est cliché, là. T'es comme dans un gros trait, là, tu sais. Ouais. C'est la demoiselle en détresse fois 5, là, tu sais. Puis, OK, c'est cool, elle est pas sauvée par un gars, elle est sauvée par une fille, mais... on sait pas c'est quoi leur histoire, on sait pas ils sont qui, on sait pas c'est quoi leur émotion. On sait juste que c'est des femmes qui sont victimes d'un gros méchant, tu sais. Donc oui, tu sais, à la limite, c'est comme un petit chaton cute qui est en train de se faire croquer par un gros méchant chien. Pauvre petit chaton, tu sais, c'est un peu le même principe. Mais ils ont pas de nuances, ils ont pas développé le côté que peut-être que ces filles-là, ben, se sont associées au gars qui les a comme aidées de sortir de la merde, puis ça pourrait être un peu plus ambigu, tu sais. Pourrait être en train de le trahir un petit peu parce qu'elles se sauvent. Tu sais, quand les personnages sont plus gris, tu sais, Genre, le méchant, lui, est uniquement méchant. Il est purement méchant, là.
T'sais, il n'est pas tant que ça, moi. C'est ça que j'ai aimé. Il y a certains moments où tu as des fenêtres sur... T'sais, même
ben
si
oui,
il voit ses femmes-là...
Ben oui, il est triste que sa femme se fasse tuer, c'est ça que tu veux dire?
Ouais. T'sais, dans le sens que je suis certain qu'il voit... T'sais, le gars a clairement des problèmes. Là. Il voit ces femmes-là comme étant des objets, comme un « meat to an end », c'est avoir une progéniture, tout ça. Mais il y a quelques moments où est-ce que j'ai senti qu'il était vraiment attristé de la mort de son fils.
Oui.
Il était vraiment attristé quand je pense qu'il y a une de ses femmes plus vieilles qui est là. Je me souviens plus ce qui arrive à ça. Mais j'ai trouvé que oui, il était méchant, puis tu sais, on s'entend là, que c'est un gros dégueulasse. Là. Mais c'est comme à l'image du personnage, c'est toute une parure. Il y avait quand même un attachement par rapport à. Là, tu dis, ils n'ont pas été développés, mais j'ai pas l'impression qu'il y avait besoin de l'être plus.
Non, parce que c'est un film d'action.
Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Ouais.
Non, mais je vous dis, que,
ouais.
Je vous accorde que c'est un film d'action. Mm-hmm. Je veux dire, tu sais, moi, j'adore James Bond, puis James Bond n'est pas si développé que ça comme personnage.
C'est un gars qui tue et qui fout.
Exact. Ça se limite à ça.
Depuis 23 films.
Depuis 23 ans.
Ouais. Mais donc, du coup, c'est ça, tu sais, je veux dire, puis je vais en venir, puis là, je vais ajouter l'élément que je sais d'où vient ma déception, parce que j'y réfléchis après ça, j'ai dit, pourquoi j'étais déçue, puis pourquoi, comme, ça l'agresse les gens, bon, ben, les gens, ils ont vu un super bon film, c'est vrai, c'est un super bon film, sérieux, c'est magnifique, moi, j'adore le gore heavy metal, je l'ai réécouté, j'ai envie de le revoir, donc j'ai hésité, puis je l'ai quand même acheté sur iTunes, 25$, c'est que c'est cher à tout,
ouais, 25$ sur iTunes,
ouais, c'est cher.
Attends.
I know, mais là, j'ai cherché ailleurs, c'était compliqué, il fallait que je voie le film pour le podcast. J'ai payé 25
ans. J'ai hâte que le on-demand, style Vimeo style, là, soit plus répandu parce que ouais, un film à 10$, là, déjà, tu sais qu'il y a une bonne partie qui va aller beaucoup plus aux auteurs. Non?
C'est ouais.
25$ à iTunes. Là.
25$ à iTunes.
Puis là, t'as une copie physique. Là. C'est
ouais, ridicule, ouais. Moi, j'ai un Blu-ray qui m'a peut-être coûté quoi, 12$.
Ah ouais, ben c'est ça. Depuis, ça fait une couple de mois qui est sorti. Là, fait que...
Ouais.
Ouais, bon, mais c'est ça, exactement. Là, je t'avais de m'acheter un lecteur Blu-ray puis d'avoir une collection, mais j'aime pas savoir des bébelles.
Ou non plus.
Non. Anyway, donc.
Bon, c'est tout petit, ça prend pas de place. Ça coûte pas très cher.
C'est l'attrait de l'objet encore. Hein.
Mais tout ça pour dire que là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a pas longtemps avant ça, on a fait le documentaire Dune de Jodorowsky.
Oui. Qui est super bon, ça.
Qui est magnifique. Puis quand tu as vu Dune de Jodorowsky, puis je sais pas pourquoi, j'ai vu une parenté quand j'ai vu le trailer de Mad Max. Avec ce soir, c'est complètement fulgurement coloré, avec quelque chose de complètement bigarré. Quand tu penses à Dune de Jodorowsky, tu penses à quelque chose, il racontait un film qui allait te transformer, il racontait quelque chose d'épique au niveau de l'histoire, les personnages étaient... Tu sais, il y avait quelque chose dans ça, puis c'est de la BD aussi.
Mm-hmm.
Puis on s'entend, on parle de Metal Hurlant, on parle de Jodorowsky, c'est comme, tu sais, t'es dans des univers proches, parce que c'est des gens qui ont fait de la BD. Donc, tu sais, Mad Max, c'est clairement de la BD filmée, selon moi.
George Miller est un amateur de comics. D'ailleurs, il a écrit des séries qui... sont un antipisode qui sont des antipisodes à Fury Road. Fait que si mettons vous avez l'impression que vous n'avez pas eu toute l'expérience, vous voulez apprendre un peu plus, il y a moyen d'aller chercher en comic.
Puis d'ailleurs, il y a un des scénaristes qui est un scénariste de BD aussi,
ouais.
Brandon McCarthy.
Mais on est dans le même univers.
Ouais, ouais.
Donc moi je pense que j'étais encore trop dans l'espèce d'aura de cette espèce de film là magique qu'on est tous frustrés qu'il n'y ait pas eu lieu. Quand tu vois le documentaire de Jodorowsky, que tu dis « Colin! » Puis moi, j'ai lu Dune, j'ai adoré ça, Dune, puis j'ai détesté le film, comme toute personne qui a adoré le livre puis qui voit le film.
Ouais.
Comme,
le réalisateur aussi n'a pas aimé le film. Fait que... C'est correct.
Lynch n'a pas aimé son film?
Lynch n'a pas aimé.
Il a comme désavoué.
Oui, désavoué ce film-là. Il voulait pas faire ce qu'il pouvait. Là,
Lynch, c'est tellement cinéaste intelligent.
Il manquait de midget devant des écrans rouges. La Twin Peaks.
Alors, c'était mon feeling par rapport au film. Donc, comme je pense que... Mais je suis d'accord que c'est un très bon film, mais je ne sais pas encore si c'est un grand film. T'sais. Est-ce qu'il va bien vieillir? Est-ce qu'il va transcender l'époque?
On ne peut jamais prévoir ça. T'sais. Je veux dire, les gens qui ont vu, mettons, 2001 à l'époque ont peut-être bien aimé ça ou pas, mais ils auraient pu prévoir que c'est un grand film. Des fois, on a l'impression... Puis tu sais, même les grands films qui sont là aujourd'hui, peut-être dans une couple d'années, on va les considérer comme de la boîte. Là,
moi, je ne sais pas. J'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu de grand film qui a été fait.
Oh, moi, je... Non,
excuse-moi,
vraiment pas.
Je pense que... Je plaisante. Ouais.
Non, au contraire. s'il n'y a pas eu de grand film, moi, j'ai l'impression que... Je ne sais pas. Ce que j'aime dans Fury Road, il y a plein de trucs que j'aime, mais j'ai vraiment l'impression que ce qui est encapsulé, c'est un vieux de la vieille réalisateur qui, à une certaine époque, a marqué. a marqué l'inconscient collectif d'une certaine façon. Puis il revient puis il fait comme, hey les jeunes, vous pensez que vous êtes cool? Voici comment on fait des putains de films. Après, on peut qualifier.
Moi, c'est ça qui m'a... Enfin, c'est une des choses qui m'a
fait complètement. C'est ça que j'ai trouvé malade. Tu sais. Ouais. Regardez, pour faire un parallèle un peu boiteux, mais les deux premiers Die Hard.
Ouais.
Comment c'est des putains de bons films d'action. J'ai écouté les deux premiers pendant le temps des fêtes. C'est excellent. Tu regardes le dernier, c'est de la merde. Il n'y a plus d'excuses. Là, ouais. si tu peux pas juste te rabattre sur le côté technique pour faire un film. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et là, ce vieux de la vieille, qu'on a ri de lui un peu parce qu'il a fait Babe, parce qu'il a fait Happy Feet. Puis là, il revient et fait comme, oh ouais! Non seulement on va faire un crisse de film d'action, on va faire un film d'action qui, au niveau visuel, est non seulement excellent. Je peux pas qualifier... Je comprends les critiques des gens qui disent que c'est un film qui est simple, mais je pense qu'il faut pas se tromper entre simplet et simple. Est-ce non. que c'est un film simplet? Non. Est-ce que c'est un film simple? Oui. Et c'est là où je vais pas dans l'idée du cliché, je vais dans l'idée de l'archétypal. Pour moi, tout ce qui est dans Fury Road, un peu moins la fin, parce que la fin, je trouve que c'est l'élément peut-être le plus faible du film, mais bon, ça fonctionne pour moi quand même. Tout fonctionne. Tout s'emboîte super bien. Rien n'est over-expliqué, on n'est pas constamment en train de revenir en arrière, tu sais ça, c'est mon... T'sais, on t'a pas besoin
ouais,
de le faire. Tout est ancré là.
C'est pas ça que je disais. Je parlais pas d'expliquer. Expliquer, ça j'haïs ça dans un film. Quand je parlais... C'est la différence entre des moments où est-ce que c'est bing, 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 bing tout le temps, mais en même temps, tu sais, moi j'ai adoré Gravity, là. Puis Gravity, c'est bing, bing, bing
tout
le temps.
C'est beaucoup de bing, bing, bing.
Ouais, ouais. Mais moi, ce que je trouvais magnifique dans Gravity, c'est que c'était comme un film poétique rencontre un film d'action.
Ouais.
Tu sais, puis j'ai trouvé ça brillant.
T'as pas eu l'impression que Fury Road, que c'était un film un peu poétique et un film d'action? Moi, j'ai eu l'impression, à certains égards, oui.
Je trouve que Gravity est plus poétique parce que c'est une histoire invraisemblable. C'est une femme qui pleure la mort de son enfant dans l'espace, tu sais. Puis c'est comme genre, tu sais, c'est comme un mélange, tu sais, au début, quand ils ont fait Alien la première fois, c'était le mélange du film d'horreur, du film de science-fiction. Tu sais, comme ça s'était fait, là, un petit peu, je pense.
En plus, c'est un huis clos.
Mais c'était la façon la plus intense, le huis clos. Il y avait quelque chose de... Donc, ces rencontres-là de genre, tu sais, puis de faire une espèce de film de poétique complètement hyper introspectif d'une personne qui vit son deuil dans cette espèce d'explosion-là, je trouvais ça beau. Après ça, pour Fury Road, est-ce que c'est poétique? C'est mythique. Ça, c'est le fun. Ils vont chercher beaucoup dans les mythes. C'est au niveau visuel. Puis je veux vraiment pas minimiser ça parce que t'sais, un de mes films préférés, moi, c'est Koyaanisqatsi, où est-ce qu'il n'y a pas d'histoire, c'est un film de documentaire. C'est comme un documentaire.
J'ai pas vu.
Ah, c'est comme. C'est juste du monde qui bouge, puis c'est comme filmé avec des. C'est contemplatif, c'est des time-lapse, c'est comme un documentaire, mais t'sais, on ne peut pas appeler ça un documentaire non plus, parce qu'il n'y a personne qui est interviewé. Là, t'as vu Baraka?
Non.
OK.
J'étais au bar, par exemple. C'est basé sur la même place.
Mais ça, il serait dû pour en faire un autre du style Baraka.
Il y en a eu un autre, il y a eu Samsara.
Samsara,
il y a quelques années, là.
Samsara,
oui. Samsara, oui. Oui, oui.
Que c'est juste comme ça.
Tu vas venir à la maison, je vais te l'avoir.
OK, Samsara. Mais oui, non, mais c'est le même qu'il a fait. C'est le même qu'il a fait Koyaanisqatsi ou.
Non.
Parce qu'il y en a trois. Il y a Koyaanisqatsi, Poyaniski.
C'est une trilogie ou une
c'est
trilogie?
C'est une trilogie.
C'est pas une quatrilogie?
Ah, peut-être, mais en tout cas, c'est au moins une trilogie.
Je sais plus. Mais bref.
C'est au moins une trilogie.
En tout cas, Baraka, il y a eu la suite. Mais je sais pas s'ils ont un projet.
C'est genre de film où est-ce qu'il y a que des images, puis c'est beau. Puis tu sais, comme quand je voulais être réalisatrice, un de mes objectifs, c'était de faire des films qui étaient. Tu vas reconnaître poésie quittonienne, c'est de faire des films où est-ce qu'il n'y avait pas d'histoire, parce que je considérais que la génération du vidéoclip était capable de regarder des belles images qui amènent de l'intensité. Puis je trouve que Fury Road est très proche de ça, mais il n'est peut-être pas assez à mon goût, tu comprends? T'sais, il serait allé un peu plus loin, puis je trouve que Mad Max 2, il est très proche de Mad Max 2, c'est très audacieux.
Mais quand tu dis plus loin, ce serait où, mettons?
Ben, ça serait d'évacuer complètement l'histoire, là. T'sais? Ce serait de même pas avoir de dialogue qui fait du sens pour la personne qui écoute le film, un peu à la manière de...
Mais là, on aurait un autre film.
Je pense à Jacques Tati, qui faisait des films où est-ce qu'il était complètement...
Mais la narration était forte dans Jacques Tati. Ouais, Playtime, je veux dire, l'histoire, elle est là, on la suit très facilement. Là. On dit rien dans Jacques Tati. Oui, tout est dit par le son puis le jeu des
mimes. C'est ça, exactement. Mais c'est ça, j'aurais voulu...
Suivait chacun, faisait chacun des mimes.
Non, mais je sais, mais on comprenait. Ouais. Mais c'est ça, mais c'est la même chose. J'aurais aimé ça qu'on aurait pu
mais
comprendre.
Mais il me semble que c'est proche, parce que le peu de fois dans les films de Jacques Tati où il y a quelque chose qui est adressé, où on dit textuellement quelque chose, ça rajoute quelque chose.
Puis non, mais
ça,
dans Mad Max, c'est assez, non? Dans chaque Tati, en général, quand les dialogues...
Il y a dialogue quand même dans Mad Max, c'est pas...
Dans Tati, quand il y a des dialogues, ils sont inaudibles. Ils servent dans l'ambiance. Ouais, okay. Ils sont carrément... Ouais. Ils sont insignifiants. OK? Ils amènent rien. T'as pas besoin... Tu mettrais du dialogue ou tu mettrais un marteau piqueur, puis souvent, c'est ça. La personne commence à parler, puis il y a un marteau piqueur qui arrive. Ouais. Puis tu comprends pareil. Donc, c'est vrai, presque du mime. T'sais? Puis ça donne toute la place à l'image et au son. T'sais? Puis je veux dire... Mais là, je suis juste en train de te dire que...
Non, j'essaie de cerner comme...
Je pense que c'est un film qui est magnifique, Fury Road. Là, comme même la déception que j'ai, c'est comme une espèce de niveau d'attente peut-être exagéré. Puis sérieusement, j'ai eu du plaisir à le regarder. Ouais. Puis tu peux pas aimer toutes ces espèces de trucs d'images-là. Le gars, justement, qui suscite son sang, puis qui est attaché au truc devant. Puis c'est comme honnêtement absurde. Ces gens-là, ils sont fous. C'est
on a quand
fun.
Même un guitariste sur des bungee cords aveugle qui a une guitare qui laquelle il pète du feu. Il y a un producteur qui a dit à George Miller, go for it.
Il y a la scène de nuit, là, le gars qui devient aveugle puis qui se met à tirer de partout. C'est super beau comment c'est filmé. Puis, les vieilles madames à la fin qui apparaissent dans leur moto aussi, puis qui sont badass. C'est le fun. Ça fait justement BD. C'est comme genre... Tu sais, puis bon, c'est, effectivement, il y a peut-être juste les petites demoiselles en détresse qui m'énervent, là, tu sais, mais en même temps...
Mais moi, je trouve même pas, en plus.
Mais ça appelle les enfants.
Je les trouve badass t'sais. Quand même, les filles. Ils ont su se battre, les filles.
Ouais, tu sais, je veux dire, elles sont pas juste là pour... Tu sais, c'est pas juste les jolies petites nanas qui sont là. Tu sais, elles ont...
potiche que ce qu'ils sont vraiment. Oui, oui. Ouais, Twilight, les filles sont beaucoup plus potiches que les filles dans Fury.
Ah, c'est horrible, Twilight.
Complètement d'accord. Non, je trouve qu'elles sont très, très bien utilisées. Mm. Il y a juste
mais c'est bien fait. C'est bien fait, mais c'est quand même...
Puis on n'en fait pas un plat. On reste quand même autour de l'histoire de Furiosa qui vole complètement la vedette à tout le reste.
Qui est extraordinaire comme comédienne, comme d'habitude. Là. Ouais. C'est peut-être pour ça que Tom Hardy PS n'a pas fonctionné, parce qu'il s'est rendu compte qu'elle était meilleure comédienne que lui, puis ça l'a frustré.
Il
était payé plus qu'elle, par exemple.
Ça, j'ai pas de détails à ce sujet-là. Ouais, c'est une A-lister, quand même, non?
J'ai pas compris.
Je pense qu'elle était plus payée que lui dans ce film-là. Ça avait fait...
Ah, ça se peut.
Bon, il y a peut-être une question d'ego. Mais j'ai pas vu que ça transparaissait.
C'est où je me mélange avec un autre film. Non, je me mélange avec un autre film. Il y a un autre film où est-ce qu'il y avait deux leads filles puis deux leads gars. Puis les filles sont là autant que les gars, puis les gars étaient payés plus que les filles.
Ah, ça c'est. Ah,
ouais. Puis je me rappelle pas c'est quoi l'histoire, donc. Mais je mélange.
Équité salariale, on n'est pas encore.
L'éternel débat.
Malheureusement. Mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé?
Oh, moi j'étais complètement. Bah, déjà, j'avais vu les bandes annonces qui m'avaient, j'avais trouvé hallucinantes là. Et du coup, c'est devenu le film que j'attendais le plus, quasiment plus que Star Wars même. C'était le film que j'attendais le plus de l'année. Parce que j'avais vu, donc comme je disais tantôt, quand j'ai vu le 2, c'est celui que j'ai préféré, le 2, parce que je trouvais l'histoire la plus intéressante, même si elle est extrêmement simple aussi, je trouvais que c'était l'histoire la plus intéressante. C'est le fait que, tu sais, c'est dans cette société où ils se battent pour avoir la dernière goutte d'alcool. T'as tout ce côté western, l'attaque du fort, tu sais, par les autres qui tournent autour.
Non, oui, le 2 était le fun, le 2.
C'est une imagerie qui est vraiment super intéressante, je trouve. Puis c'était complètement nouveau à l'époque, quoi. T'avais jamais vu un truc pareil. C'est pas qu'il avait inventé le genre post-apocalyptique, mais c'est vraiment c'est cette imagerie-là, ce qu'on dirait qu'après, les Italiens sont venus pomper.
Mais je pense qu'il y a, quand on parle de cyberpunk, je pense qu'il y a un des premiers films cyberpunk.
Peut-être bien.
Je pense que ça a développé le côté... Ouais. L'idée du cyberpunk, tu sais, le cyberpunk, c'est le... Mad Max 2,
c'est un peu le...
C'est le cas-école cyberpunk. Ouais. Là.
Je parle de cyberpunk, moi, je l'associe beaucoup à... Le fameux film, j'ai oublié. C'est un robot qui est récupéré
Hardware.
Dans un appartement.
Hardware.
Ça, c'est du putain de cyberpunk.
Ça, c'est bien après. Ouais,
mais c'est
ça,
après, c'est 84, hein,
oui, sûrement, mais je veux dire, pour moi, ça englobe pas mal ce que le cyberpunk.
Non, oui, c'est le cas école, cyberpunk.
C'est un film qui est assez... je veux dire, ça a super bien vieilli, là. Tu le réécoutes aujourd'hui, là, c'est très bien filmé. Après, le gars, il a fait des trucs bizarres.
Ben, donc, Fury Road, ça m'a replongé dans cette ambiance-là.
OK.
J'aime que c'est un film qui perd pas son temps à t'expliquer ce qui s'est passé, que pourquoi.
Ah, ça, c'est correct.
C'est genre, en deux minutes, t'as compris dans quoi tu te situes et t'acceptes ou t'acceptes pas. C'est complètement louf-dingue, c'est complètement, tu sais, c'est.
Non, mais ça,
c'est de monde de fou.
Ça, je tiens juste à préciser encore une fois que c'est pas ça que je veux dire. Dans 2001, on passe zéro temps à t'expliquer.
Okay? Encore moins que dans Fury Road.
Okay? Ouais.
C'est vrai.
Puis c'est un film qui est extraordinaire. Ouais. Moi, j'attendais Fury Road de la même calibre que 2001. Le temps dira.
Ouais,
mais tu vois ce que je veux dire? Okay. C'est pas juste pour ce pauvre Bob Miller. George Miller. Parce que le comparer à Kubrick, c'est quand même, tu sais, il a fait Happy Face puis Babe, là.
Ce que tu disais avant aussi, c'est que t'as ce papy de 70 ans qui arrive puis qui donne une leçon de comment mettre en scène une scène d'action, pour moi.
Ouais, c'est vraiment ça. Je veux dire, c'était un gars qui est arrivé. Puis non seulement, tu sais, je suis sûr que des gens, en fait, des fois, qui ont des idées extraordinaires, mais qui peuvent pas aller au bout de leurs ambitions pour d'autres personnes en arrière qui prennent des décisions qui bloquent. T'sais, ce gars-là, je sais que c'est un film qui était un espèce de labor of love. Il l'a fait comme il voulait, de la manière qu'il voulait, puis il a pris le temps que ça a pris pour le faire.
Ouais, parce qu'il a,
et non seulement c'était, je veux dire, le résultat lui donne raison. Je sais pas, on dirait que ça la remet sur la map d'une même manière. Moi qui ai fait Happy Feet avant, ou qui ai fait.
Mais j'ai aimé ça, Babe, hein, moi.
Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça Babe. J'ai bien aimé Babe. Pour moi, ça a aucune importance. C'est comme si tu me disais. Tu sais, les gars qui ont fait Captain America Winter Soldier, c'est des producteurs qui faisaient de la comédie. Il n'avait jamais réalisé de l'action avant.
Ils étaient sur Community avant, je crois.
Ouais, ils étaient sur Community. Ils ont fait, c'était des producteurs c'est essentiellement. Ouais, moi j'adore Community. C'est en amour qu'Alison Brie. Alison Brie, si tu nous écoutes, je t'aime. Mais ces gars-là n'avaient rien fait avant, puis ils sont arrivés au genre plus action, super-héros, puis ils ont réussi à faire quoi qui était franchement potable, qui compétitionnait, même qui était à certains égards meilleur que Avengers. Mais ils ne venaient pas de ce milieu-là avant. Ils sont sortis de nulle part, left field, puis ils ont fait leur truc. George Miller a fait la même affaire. Hey, j'ai fait des films pour mes enfants, puis il a expliqué. Je suis dans ce mood-là parce qu'à l'époque, j'avais des enfants à cet âge-là. Maintenant, ses enfants, sont plus vieux.
Ben voilà.
Ses sont élevés. Et il revient à l'univers qu'il a créé. Et non seulement il va comme chercher la veine de ce qu'il avait déjà fait dans le temps, mais il l'amène à un autre niveau. T'sais. C'est un film d'action qui fait du bien. Combien de films d'action qu'on a vus dans les dernières années qui sont vides? Pas parce qu'ils sont films d'action, t'sais, mais juste parce qu'ils sont mal faits. Pour moi, un des meilleurs films d'action que j'ai vu dans les dernières années, puis je sais que le monde va rire de moi, mais c'est le deuxième Expendables. Le deuxième Expendables aurait dû être le premier. C'était exactement ce que la prémisse préposait dans le premier Expendables. Puis on l'a atteint dans le deuxième, on l'a réoublié dans le troisième. Puis c'est un film d'action qui fait du bien. Le Fury Road, c'est un film d'action qui fait du bien.
Comme, c'est fou, quoi.
C'est traité avec tellement d'amour et d'originalité.
Ouais.
Mais c'est un film d'action.
Ben, c'est ça. Moi, je te dirais que dans les films d'action que j'ai vus, ça serait comme, sérieusement, mon deuxième ou troisième préféré, là. Tu sais, je mettrais probablement Gravity avant, tu sais, puis je mettrais lui après. Tu sais, c'est vraiment, en termes de films d'action, c'est magnifique.
Gravity, je le mettrais dans une autre catégorie. Je le vois pas comme un film d'action.
Ah ben oui, c'est un film d'action.
Je vois comme dans un huis. Moi, je le vois comme Abyss.
Ça reste un film d'action parce que t'es dans le mouvement constamment.
Ouais,
tu sais, je veux dire, puis moi je calcule à la seconde du plan là, tu sais, genre quand je fais deux puis on passe à un autre plan pendant la majorité du film, je me considère dans un film.
Je le mettrais dans la catégorie de open water. Tu sais, qui sont pas Frozen sur le tu sais, c'est là t'es pas pogné dans l'eau, t'es pas pogné sur une espèce de monte pour les skieurs là. T'es pogné dans l'espace.
Mais oui, mais dans le, un truc, j'ai pas vu Open Water, mais je vois la prémisse.
Ouais.
C'est que dans un film plus d'horreur, t'es plus dans la tension, puis dans une espèce de lenteur extrêmement angoissante, parce qu'il faut que tu surfes sur l'émotion de ton spectateur, ou est-ce que t'es dans une espèce de quelque chose où est-ce que tu crées la peur, versus dans un film d'action, tu crées l'adrénaline, tu sais. Mm-hmm. T'es constamment dans un état d'adrénaline, dans Gravity.
Mais les deux sont présents.
Mais ça dépend. T'as des films comme...
Mais j'ai pas vu Open Water, mais j'ai l'impression que c'est plus...
Non.
Mais ça encore, c'est quelque chose qui dépend. T'as des films comme 28 Days Later, qui sont intenses, là. C'est du film d'horreur, c'est du film de zombie, mais qui est intense.
Ah ben moi, je trouve que c'est du film de zombie action, hein. C'est mélangé deux, là. 28, ça, c'est un bel exemple d'un beau métissage, là, que j'adore, d'ailleurs, ces films-là. Je les trouve super le fun, là. Puis pourquoi ils ont pas fait 20 l'autre?
Il y a eu 28 Weeks, qui était très bon, là.
Puis 20
j'ai pas vu, qui était produit par Danny Boyle.
Très différent, mais très bon, les deux. C'est rare que les deux.
Ouais.
C'est juste comme différent, puis c'est vraiment bon. Moi, ouais. Ouais, non, mais j'aimais les deux. Mais donc, c'est ça, c'est sûr que Fury Road, je me sentirais. C'est ça que, comme je dis, c'est con de dire que t'es déçu d'un film que tu trouves si bon que ça, tu sais.
Toi, c'est vraiment au niveau de l'histoire, toi, où il y a un truc qui pêche.
Mais en fait, c'est ça, j'essaie pas de te convaincre, j'essaie de comprendre ce qui t'a chicoté. Et puis tantôt, je comprends pas ce qu'elle a pas aimé.
Je m'explique mal parce que j'arrête pas de dire que j'ai aimé le film.
Moi, oui, c'est ça. J'ai aimé le film, mais je suis déçu.
J'ai beaucoup, beaucoup apprécié la simplicité de l'histoire, moi, c'est très efficace, quoi.
En fait, je trouvais que la simplicité de l'histoire servait à ce qu'on avait à nous présenter.
Exactement.
qu'on avait dans nos années. Si on avait commencé à faire un backstory, mettons, sur la... ce qui a amené l'apocalypse,
non,
on s'en fout, ça sert à rien.
Non, c'est pas là
que les objections.
Il perd pas son temps avec ça, il va droit au but et c'est ça qui est ça. Mais je pense que c'est un.
Mais il y a aussi le fait que le film d'action, c'est pas le genre que je préfère.
Okay.
Moi, mon genre préféré, c'est le thriller, c'est la sci-fi. Classique. C'est vrai, il y a un truc, un des problèmes que j'ai en fait avec la science-fiction, puis ça on en parle souvent, je me répète, c'est que souvent, on va hijacker une histoire de science-fiction pour en faire un film d'action. Ce qui m'avait énervé avec Star Trek, c'est qu'on avait pris une histoire de...
Je sais pas si t'as vu la bonne annonce du nouveau Star Trek, mais...
Ouais, je serais pas plus heureuse, parce que Star Trek, c'est tellement basé sur des prémices de c'est presque comme Twilight Zone, là. C'est des histoires un peu... Quand tu regardes la série télé, tu sais...
Ouais.
Puis on va pas me faire à croire qu'un film... Ben c'est ça l'affaire, c'est que quand tu mets 200 millions dans un film, faut que ça pète de partout, tu sais, faut que ça explose de partout. Je pense que je me suis réconciliée avec Fury Road depuis que j'ai vu Mad Max 2. Je te dirais. Okay. Parce que Mad Max 2, c'est vraiment un film d'action. C'est tout, comme on disait, c'est tous les archétypes de Miller. Puis il s'est respecté en faisant Fury Road. Mm-hmm. N'ayant pas vu Mad Max et n'ayant vu qu'une bande-annonce, puis étant sous l'influence de peut-être Dune de Jodorowsky, quand tu lis le livre Dune, c'est pas un livre qui est un film d'action. Mm-hmm. Tu peux pas faire un film d'action avec Dune. Aussi mauvais que soit le Dune de...
The Fincher.
Excusez-moi. Tu sais, ça reste pas un film...
Un très bon réalisateur.
Un autre bon réalisateur. Ouais. Lynch n'a pas fait un film d'action avec Dune, parce que Dune, il y a une histoire extrêmement complexe, tu sais, qui est pas basée sur... qui ressemblerait plus à série télé, là, Game of Thrones.
Okay, c'est politique. C'est très politique.
Ouais. C'est ça, c'est très politique.
C'est pour ça que ça a été adapté aussi dans les dernières
politique,
années.
C'est politique, c'est mystique, c'est space opera, tu sais, puis il y a des trucs, c'est ça, beaucoup de magie.
Le problème, c'est que c'est... Je comprends pas.
Ben, c'est parce que c'est un film d'action. Moi, je m'attendais pas à voir un film d'action.
OK.
J'ai vu une bande-annonce puis je savais pas que je m'allais voir un film d'action. Donc, puis j'aurais aimé que ça soit un film qui soit basé plus sur... Quand je te dis l'histoire, ben oui, il y a une histoire dans un film d'action, mais plus sur le développement des subtilités, justement.
À la défense du film, tu es en train de me parler de ce que toi t'appréhendais, pas ce que le film est en soi.
Oh, mais le film, il est correct dans ce qu'il en soit.
On avait parlé de Star Trek la dernière fois.
Moi j'ai jamais dit... Je n'ai commencé mon truc que par exprimer une déception que moi, j'avais.
Oui, absolument.
Qui n'a jamais été le film est mauvais.
Non, mais absolument. Mais
et ça, je n'ai jamais dit.
tu parlais de Star Trek juste avant, puis j'ai juste backtracké parce que je suis un fan de Star Trek autant que je suis un de Star Wars. Je pense que j'ai été élevé plus par Star Trek que mes parents, salut. Non. Mais, tu sais, je veux dire, Star Trek... À l'origine, c'est pas une série d'action, on s'entend. Surtout, je pense que Generation s'est retrouvé aussi. Là. Ils vivaient dans l'ombre de la première série, ils ont dû adapter leur truc, puis éventuellement se retrouver vraiment vers les dernières saisons, puis ça donnait des petits comme Deep Space Nine, puis Voyager, qui étaient différents, mais qui s'inspiraient beaucoup des dernières saisons de Star Trek. Ceci étant dit, les deux films sont très différents. On n'est pas dans l'exploration, c'est pas Wrath of Khan ou c'est pas le premier Star Trek, mais ça reste une bonne adaptation. Est-ce que c'est ce que moi j'aurais aimé voir? Pas forcément, mais je suis content d'avoir vu cette interprétation de ce truc-là. La même manière que, tu sais, Fury Road, est-ce que c'est le film expérimental? Est-ce que je comprends que t'aurais aimé ça? Non, mais je suis content d'avoir vu la vision de ce gars-là. Moi, je suis un gars qui lit les comic books depuis 15 ans. Puis le take sur Superman, moi, quand ça me fait rire, quand quelqu'un me dit « Ah ouais, j'ai écouté un film de Superman », c'est pas bon parce que c'est pas le Superman de la BD. De un, le Superman de la BD, il volait pas, il sautait, il était misogyne, puis il, t'sais, je veux dire, il tapait des petits noirs en 1930, tu sais. On dirait qu'il y a comme...
C'est bon.
Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est pas...
Point, ouais.
Fait que tu dois, à un moment donné, accepter le take sur ce personnage-là comme... Fury Road, est-ce que c'est le film que moi j'aurais fait? Probablement pas, je suis pourri. Mais est-ce que je suis rentré dans la ride? Est-ce que. Je trouvais que c'était bien. Comment je pourrais dire? C'est distribué. C'était bien josé.
Ouais, mais.
Là-dessus,
je suis d'accord avec toi. Je veux dire, c'est juste que, comme je dis, moi, les films d'action, c'est pas mon trip au départ. Je sais qu'il y a des. qu'il y ait des gens. C'est plus un trip de gars aussi, film d'action. Je pense que c'est vraiment fait.
C'est un trip de fille aussi.
Sérieux. Tu vas t'asseoir, là, puis tu vas. Écoute, là, la comédie romantique, c'est un truc. J'haïs les comédies romantiques.
J'aime ça, les comédies romantiques.
J'haïs ça.
Non, mais en plus, Fury Road est un film de femme.
Ouais, en plus, c'est ça. Ouais. C'est
l'homme pas. Tous les personnages, tous les bons personnages sont des femmes. Tous les hommes, à part Max et Nox. Tous les hommes sont
Max,
des vilains.
Max, c'est comme un peu comme accessoire en plus dans ce film.
Oui, complètement.
Ah, moi, je le trouve comme le yin à son yang. Mais, je pense que le monde aurait aimé ça qu'il soit plus proactif initialement.
Il est un bon véhicule pour amener autre chose, finalement. Même finalement, le chemin que fait le personnage de Nox est super intéressant aussi.
Oui, oui.
Il parle de cette espèce de petit furieux. Là,
Mais qui est endoctriné aussi. Voilà. Puis qui prend... c'est comment il s'appelle Joe, comme un genre de dieu.
C'est ça, mais en même temps, c'est ça. C'est un univers qui est tellement riche de possibilités d'histoire. Tous ces personnages-là. Puis, en fait, tu prends un film, mettons, de quoi, 2h15.
Mm-hmm.
Puis, t'as plein de trucs super intéressants, de pistes intéressantes. Puis là, tout d'un coup, t'as 85% du film que c'est bang, 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 bang. T'sais? Puis, c'est comme. T'sais, moi, j'adore les films de kung-fu parce que je trouve super beau, les trucs de kung-fu. J'adore les films de danse parce que j'adore la danse et tout. Puis en fait, c'est la même chose. Hein? C'est comme des chorégraphies. Puis c'est sûr, je regardais ça.
C'est ça.
Les trucs sur les bungees, les motos qui sautent tout le temps, partout, le truc zéro vraisemblable. Mais donc bref, t'as beaucoup de mouvements.
Mais tu vois, tu dis zéro vraisemblable, mais en même temps, ils l'ont fait en vrai.
Mais dans le sens que, penses-tu que tu serais capable de monter sur un truc avec un gun, tu fais poum, 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 rien de prendre dans le truc pendant que t'es bombardé de balles, tu sais.
Ça reste du cinéma.
Oui, mais j'ai dit zéro vraisemblable parce que c'est vrai que c'est zéro vraisemblable. Ça veut pas dire que c'est pas le fun, tu sais. Je veux dire, c'est pas vraisemblable que Gene Kelly se mette à danser, genre dans un restaurant, puis que là, il y a plein de gens qui sortent, puis qui représentent Paris parce qu'il veut impressionner une fille, là. Tu sais, ou que Fred Astaire fasse des pas de danse sur la rue.
Je suis super déçu.
Non, tu sais, c'est pas. Il y a rien de vraisemblable dans le cinéma. Je sais pas,
le mariage de mon meilleur ami, tu sais, à la fin quand il chante là, dans on passe ça dans la vraie vie.
C'est bon, le chien il est pas mort dans la guerre des tucs, ok, c'était pas vrai.
Oh, non. Moi j'ai tant souhaité que la guerre des tucs qui ont fait leur fort sur un cimetière indien. Un genre guerre des tucs rencontre Pet Cemetery.
Ça serait, ça serait bon. Tellement drôle de faire la guerre des tucs et zombies. Bon.
Le chien revient.
Oh, oui. Guerre des tucs et zombies. Guerre des tucs et zombies, on fait ça. Ça serait tellement drôle.
Là, ce serait le bordel.
Faut pitcher ça.
Ah oui, faut le pitcher, c'est sûr. Là. La SEDEC, je pense pas qu'il me donnerait de l'argent, par exemple. Je sais pas pourquoi. J'ai comme le feeling que.
De quoi? Que ça marchera pas
avec la SEDEC.
Qu'est-ce que tu veux dire que c'est
que c'est comme un film d'horreur.
Ouais.
Mais je suis sûr qu'on aurait un bon public québécois pour aller les voir Garde des tucs et zombies.
Regardez la quantité de gens de mon âge ou du monde en plus jeune que moi qui écoutent Netflix parce qu'ils se retrouvent pas dans ce qui est fait au Québec là. Ça de même. Moi je suis pas productrice, je m'en fous hein. Fait que...
moi je dois faire attention à ce que je dis.
Je sais. Moi je suis juste déçu. Juste déçu.
Ouais, mais moi, je dis aux gens qui ne sont pas contents de la SEDEC, travaille pour vous.
Ouais.
Et donc, allez-vous plaindre. Il n'y a personne qui écrit des lettres à la SEDEC pour y dire on ne veut pas voir des films de même, on veut voir d'autres films. Tu sais, s'ils recevaient cinq. Tu sais, c'est des fonctionnaires. Écris à ton député, écris au ministre de la Culture, puis dis je m'excuse, moi, la SEDEC, j'aimerais ça qu'elle finance tel genre de films. Puis je ne me sens pas représentée.
Moi, j'ai essayé de.
Ils vont changer, là. Mais.
De prouver avec Turbo Kid quand Turbo Kid est sorti, qui est d'ailleurs, on soit disant passant, un héritier de Mad Max, là, c'est clair.
Il
y a une ligne directe à faire entre les deux, c'est certain, puis ils ne se le cachent pas. Eux autres, ils n'ont pas des chars, ils ont des BMX.
C'est comme mec, moi, j'ai eu zéro déception quand j'ai vu Turbo Kid, j'ai adoré ça.
Non, mais c'est ça, mais.
Non, mais c'est complètement assumé.
Mais c'est assumé, puis je veux dire, ça a remporté plein de prix à travers le monde, puis c'est bien tant mieux, mais il y avait une espèce de standing à faire par rapport à ça, tu sais, comme au Québec quand c'est sorti, puis tant mieux, c'est resté plusieurs semaines en salle, puis malheureusement, moi, je considère que ce film-là, les gens auraient dû être invités à Tout le monde en parle, parce que c'est rare que c'est leur premier film qui fait autant parler d'eux à travers le monde. Malheureusement, c'était pas la période où l'émission était pas en onde, tu sais. Mais je pense que ça, c'est une manière aussi de convaincre les gens qu'éventuellement, ben, le genre, ça marche aussi, là. Il y a comme Fantasia qui est sold out à chaque année.
Genre.
Ça de même. Ça de même. Puis je crache pas sur un type de cinéma versus l'autre. Là. Moi, c'est ce que je veux, c'est une pluralité. Tu sais, des films de cuisine où est-ce que le monde boit du vin, genre, puis ils s'engueulent avec leurs parents, j'en veux. Là. Mais je veux aussi peut-être un film de cuisine où pendant qu'ils s'engueulent, ils parlent avec leurs parents, il y a un zombie qui arrive par en arrière. Il y a un post-apo, tu sais. C'était mon éditorial.
Là-dessus, je me signe pas avec toi, je suis d'accord.
Mais Fury Road!
Non, mais juste une dernière chose par rapport à Fury Road, par rapport à mon impression. Mm. Moi, je tiens à dire que je suis quelqu'un qui change d'idée ou de feeling, parce que quand j'ai vu Blade Runner pour la première fois, j'avais quand même 14 ans, j'avais haï ça, j'avais rien compris. Mm. Puis aujourd'hui, c'est probablement un de mes films préférés.
Je pense qu'il y a le film même.
Il est dans mon top 10.
Il n'avait pas bien fonctionné.
Ça a été un échec total.
C'est ça, hein? C'est ça, ouais.
Un échec total. Puis maintenant,
après,
si je te dirais,
c'est
clair que Blade Runner est dans mon top 10. J'ai très peur de la suite qui va être faite par Denis Villeneuve. Denis, si tu nous écoutes, c'est pas parce que je te fais pas confiance, c'est juste que j'ai tellement aimé Blade Runner que j'ai peur d'avoir une déception comme pour Fury Road.
Mais c'est Denis Villeneuve quand même.
Bonne chance.
Ce qui est malade, c'est que quand le deuxième sort, ça efface pas le premier.
Hein?
Ah. Comme moi, le monde qui chiale sur le prochain Ghostbusters, qui ont d'ailleurs pas vu le film. Ah, c'est des filles. Ouais.
Mais ça se fait pas, Bill Murray.
C'est plate. Mais qu'est-ce qui va arriver quand le prochain Ghostbusters va sortir au premier? Absolument rien, pantoute. Ouais, t'es encore là, tu vas l'écouter. Absolument rien, pantoute.
Eh oui.
Comme si c'est quelque chose qui effaçait le passé de même. Là,
ouais, c'est vrai, comme si c'était une insulte.
Ouais, c'est comme si ça défaisait les premiers films. T'sais.
C'est les remakes aussi, quand il y a des remakes. Mm-hmm. C'est comme si les gens sont fâchés que quelqu'un fait un remake, quand dans le fond, c'est comme moi, j'ai adoré le remake Dawn of the Dead.
J'ai adoré Scott Snyder, c'est super bon. C'est un super bon film. Je pense qu'il y a un plan éventuellement quand il va lâcher DC et compagnie, mais qu'il veut faire un prochain film qui n'est pas basé sur aucun film de George Romero, dans le même univers de son Dawn of the Dead. Moi, je pense que Dawn of the Dead de Scott Snyder, quand tu rentres avec la chanson de... Ah, oh, bordel, chanteur country, le bordel.
Ça m'échappe. Ça m'échappe, mais ouais.
When a man comes around.
Ouais, j'essaie de qu'il vous parler. On a comme
Cash, Johnny Cash.
Johnny Cash.
Et là, t'as l'espèce de mélange de scènes, de nouvelles de télé de CNN avec, t'as des virus, t'as des scènes de violence à travers le monde. Je trouve que c'est comme, il te met tellement la table, là, pour ce l'univers que tu vas comme consommer pendant une heure et demie, là. J'ai adoré ce film-là. Je pense que je l'ai. Puis la journée que je l'ai eu, je l'ai écouté comme facilement deux, trois fois.
Moi, je pense que c'est grâce à ce film-là que j'ai commencé à développer mon plan post-apocalyptique.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Parce que sérieusement, pendant une semaine, j'étais couchée dans mon lit la nuit, puis je suis comme « Louise dort ». Puis là, mon cerveau faisait, mettons que les zombies ils rentrent par la porte, là. Qu'est-ce que je fais? Je vais-tu dans la cuisine? Qu'est-ce que j'ai? Marie-Louise, les zombies, ça n'existe pas, c'est juste dans des films d'or. Puis mon cerveau.
Les zombies parlent leur rage.
Je vais même pas aller là, c'est juste genre, j'étais comme, vraiment passé une semaine à pas dormir à cause de
The Last of Us, le jeu de Last of Us,
moi, c'est cette expérience-là. Nick en avait parlé, c'est quand on faisait notre autre podcast, je pense que tu avais parlé de ça.
Je m'en rappelle plus, non, je sais plus, mais en tout cas,
c'était similaire,
c'est vraiment incontournable. C'est peurant, jouer à ça.
Moi, j'ai malheureusement pas encore joué, c'est mon prochain sur ma liste, mais de ce qu'on a parlé, c'est on adapte le zombie, puis on en fait un... Les humains qui sont atteints du fameux champignon là, qui transforme les fourmis en zombies, là, ça existe pour vrai. Là. Ouais. Puis c'est le même mythe finalement, c'est qu'on y donne une autre raison. Ouais. Ils n'ont pas la rage, c'est pas 28 Days Later, c'est pas les zombies, ils sont pas morts, ils ont un champignon dans la tête. Mais c'est tout le temps.
Mais ce qui est intéressant dans le film aussi, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas seulement ces gens infectés qui sont là, il y a aussi les êtres humains qui sont là et qui te veulent du mal.
Comme dans The Walking Dead, les pires ennemis, c'est pas les zombies.
Comme dans The Road, il y a un peu c'est tout ce côté. C'est ça qui est intéressant dans le jeu, c'est que ça te plonge vraiment dans une atmosphère tendue.
Ouais,
là,
c'est le fun, le post-apocalyptique. Ouais. Moi, j'écris une histoire post-apocalyptique. J'ai bien du fun à le faire, justement. J'adore ces univers. Oh, c'est peut-être autre affaire qui me rendait sévère avec Fury Road. C'est comme je suis en train d'écrire plusieurs... parce qu'en fait, pour être franche avec toi, moi, je suis en train d'écrire une bande dessinée qui se passe dans un monde post-apocalyptique. Par rapport à la même bande dessinée, j'ai deux longs métrages d'écrits, puis je suis en train d'écrire une bible. Tu sais, comme que je veux dire une bible, là, j'ai
inventé l'essentiel,
puis c'est un truc qui se passe sur 500 ans. Donc, tu sais, j'ai comme tout un univers que j'ai créé dans ma tête. Puis oui, peut-être aussi, comme étant une grosse fan du post-apocalyptique, tu deviens peut-être plus... T'as peut-être un autre regard, là. C'est peut-être un petit peu. En fait, c'est ça que depuis ta façon, je vois, tu dis, oui, mais pourquoi t'as pas aimé ça, t'as aimé ça? C'est peut-être comme la personne qui est en train d'écouter un violoniste extraordinaire jouer du Paganini versus un autre, puis qui compare les deux en disant, oui, mais lui, son Paganini est un peu mieux, mais là, toi, tes écoutes, tu vois pas la différence. Voyons, ils étaient fucking bons tous les deux. Non, tu comprends pas, là.
Ouais,
le truc,
avec Miller, on peut voir la différence. Écoute, n'importe quel film d'action des dernières années, là, tu vois.
Je te parle de post-apocalyptique.
Oui, je sais, mais tu vois, mais justement, je veux dire, dans un film de post-apo qui a vraiment marqué l'imaginaire dans les dernières années.
Qui a marqué l'imaginaire dans les dernières années.
Autant que Fury Road ou qui arrive à peu près en second.
Il n'y en a pas eu beaucoup.
Moi, j'ai beaucoup aimé Snowpiercer.
Oui.
C'est un beau mélange avec une cinématographie qui est sud-coréenne. Puis bon, ce que les Américains font.
Là-dessus, d'ailleurs, Olivier lui a détesté ça. J'ai hâte de le faire.
J'ai bien aimé.
Lui.
Ça m'a fait penser beaucoup à l'univers du jeu BioShock. On dirait que ça pourrait être dans le même univers.
Ouais, ça, c'est,
mais sinon, un film d'action passe la peau de ce niveau-là.
Mais moi, une fois, j'ai préféré quand je l'ai vu. Ben, pas que j'ai préféré, mais j'ai comme plus une fun d'avoir Snowpiercer que Fury Road sur le coup. Ouais, parce que j'ai trouvé. Ben, sur le coup. Après ça, je suis d'accord que Fury Road est supérieur à Snowpiercer d'une certaine façon parce que c'est un film qui est beaucoup plus maîtrisé, qui est beaucoup plus complet, complexe au niveau. Mais Snowpiercer, je le trouvais. Je m'attendais pas à ça. Tu comprends? J'avais aucune attente. T'sais, c'est beaucoup au niveau des attentes, en fait. Moi, je pense que je vais arrêter d'écouter des previews. Je vais faire comme dans Slash Film, là, où est-ce qu'il écoutait le gars.
Il y en a un, là.
Il n'écoute aucune
bonne annonce.
Ah, ouais, moi, mes meilleures expériences de cinéma, c'est quand j'allais voir un film que je savais pas en tout de quoi ça allait.
Ouais, j'aurais dû faire ça au Star Wars.
J'allais dire que j'ai préféré Fury Road à Star Wars.
Ben, moi, j'ai plein de raisons pour Star Wars. J'ai eu du bon temps. Mais j'ai la misère avec le... Puis je suis fucking asshole pour ces affaires-là, mais j'ai la misère avec l'idée de classer un film... Tu sais, j'ai des préférences, mais j'ai la misère à classer un film supérieur à un autre. Dans le sens où tu me dis...
Ouais, tu peux pas
j'ai aimé Fury Road plus que Star Wars. Pour moi, Star Wars est venu combler quelque chose que Fury Road pouvait pas. Puis Fury Road est venu combler des trucs que le dernier art. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, essaye de mettre ça sur une espèce d'échelle hiérarchique qui est juste dans notre esprit. Puis c'est comme quelqu'un qui me dit, j'ai pas aimé tel film parce que telle affaire, j'ai pas aimé la fin. Ouais, mais ultimement, est-ce que la fin, puis ça arrive des fois que la fin est super décevante, là, mais est-ce que la fin, en fait, au point que t'as détesté ton expérience? Tu sais, c'est. Et là où ça devient fou de mettre. Sans une espèce de
ouais.
Moi ça marche
de les comparer.
Ouais. C'est un exercice intéressant, tu sais, comme je veux dire les on peut le faire une liste des 100 meilleurs films américains des 100 dernières années, puis c'est cool, tu sais, mais
ouais, mais attends,
je trouve que c'est comme un espèce d'exercice qui est futile.
Ultimement, si tu me demandes mon expérience de deux films, ben je vais dire que Armageddon, j'ai haï ça, puis Fury Road, j'adore.
Oui,
ça.
Tu peux dire.
Je peux quand même te dire qu'il y a des films que je les ai regardés avec une agressivité tout le long tellement ils m'insultaient.
Oui, comme tout le monde.
Tu sais, comme Armageddon, Independence Day.
Mais tu vois, Independence Day, qui était un film con, m'a quand même diverti. À certains niveaux, c'est là où je dis que l'échelle ne fonctionne pas.
Ah ouais.
C'est qu'à certains niveaux, Independence Day est hautement divertissant. C'est stupide, mais il y a des trucs qui sont vraiment cool. Tu as du fun à certains moments. Moi, la première pitié, je veux dire, t'as American Power à la fin, puis il y a personne qui va trouver que c'est vraiment intéressant, mais le résumé, j'ai trouvé ça divertissant. C'est pour ça que le prochain,
et moi, l'autre...
j'ai zéro attente, j'ai hâte de le voir. Ben, je suis sûr que je vais être crampé, je vais avoir du fun.
Ouais, moi, il y a la partie aussi qui craque un système informatique. Moi, je suis un peu
amalgué. C'est con. Geek, c'est con. Non, non, on s'entend, ouais, d'accord. C'est stupide.
C'est vrai, t'as un bon point. C'est vrai que tu peux pas comparer.
Moi, mes préférences, ça va toujours être pour le hard sci-fi. J'ai comme une faiblesse pour les gens qui essaient de se casser le pompon. Comme je trouvais que Her était intéressant pour ça d'une certaine façon parce qu'il y avait quand même une sorte de réalité possible tangible de créer ces AI-là qui pourraient être possibles. Puis j'adore quand il y a un peu de poésie avec ça. Moi, mon livre de science-fiction préféré, ça serait Hyperion, tu sais, où est-ce qu'il... ils vont faire un film, j'ai tellement peur de voir ce film-là. Là.
Mais c'est ce qui va arriver à ton livre, absolument rien.
Non, là, il va être correct.
moi, il n'y a rien qui.
Non, mais c'est parce qu'oublie pas, moi, je suis dans le cinéma, donc j'ai des fantasmes de réaliser certains films. Donc,
oui,
quand je vois un film que j'aurais aimé produire, si tu veux, puis que je suis comme.
Ouais, mais inquiète-toi pas, ils vont rebooter Spider-Man la troisième fois prochainement. Fait que
je sais,
peut-être dans deux ans, tu peux te refaire le deuxième épisode.
Je vais être capable de refaire Andrew's Game dans une couple d'années.
Ouais, non, mais c'est ça, tu sais, ça se peut que tu le fasses très bien.
Qui paraît qu'il n'était pas si pire que ça, je n'ai pas vu Andrew's Game. Le film.
Je trouve ça correct. C'est Harry Potter dans l'espace.
T'as-tu lu le livre?
J'ai pas lu le livre à cause des propos de l'auteur.
Ah ouais, mais je sais, je suis pas d'accord plus avec les propos de l'auteur, mais le livre est tellement magnifique, là. C'est extraordinaire.
Ça se peut que ça soit très cool, ouais.
Tu sais, je veux dire, puis c'est même pas un livre qui défend rien de ses propos. Là.
Non, je sais, il y a rien, mais c'est comme... Moi, je l'ai vu pour la job, j'avais pas le choix de le voir pour la job, mais avoir eu l'option, je serais pas allé le voir. Ouais. À cause de ça, je trouvais
qu'il manquait un truc, c'était vide ce film.
Il est pas parfait, mais pour ce que c'est...
Il manque quelque chose.
Mais c'est drôle parce que le livre est vraiment viscéral. Là. Tu lis ce livre-là, puis c'est...
Ça, tu l'as pas pendant le film. Tu vois le truc, ok, c'est fun, mais c'est pas sans plus.
J'ai trouvé intéressant de découvrir que ce gars-là avait ces propos-là, parce qu'en lisant le livre, je me suis posé...
Tu le sentais pas?
Non, c'est pas ce que je le sentais. Au contraire, c'est que je sentais que la personne qui avait écrit ce livre-là avait quelque chose d'extrêmement troublé à l'intérieur de lui. Tu sais? Puis, parce qu'il y a quelque chose de tu sais, c'est troublant, tu sais, mais pas troublant comme The Road, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Tu sais, The Road, c'est comme... intense, là. Mais c'est juste comme... Les personnages ont quelque chose de c'est triste. Il y a une grande tristesse dans cette histoire-là. Ça parle d'un enfant soldat, là. Ouais, c'est ça. C'est un enfant soldat, puis c'est dur, tu sais. Il y a une dureté, tu sais, donc...
À certains égards, c'est plus dur même qu'Harry Potter. Je veux dire, dans le sens que Harry Potter, avec le temps, ça devient vraiment sombre, mais... Dans Ender's Game, initialement, ça a l'air comme bonbon, mais c'est tu sais, il y a du monde.
Non, ça va pas
dans
le livre. Ça rentre très vite
dans le livre, il n'y a rien de bonbon. Le livre,
non, mais je parle du film, là. Moi, je n'ai pas lu le livre.
Non, sérieusement, dans le livre, il y a zéro. Il n'y a aucun moment, je ne sais même pas c'est quoi qu'il y a dans le film, peut-être de bonbon, parce que dans le livre, ça commence tough. Parce que, tu sais, c'est comme genre le petit gars qui sent qu'il ne fit pas dans sa famille, que personne n'aime, qui se fait arracher de sa famille, puis envoyer dans le truc, tu sais. Puis il est. Il a comme battu à l'école un de ses amis, tu sais.
Ouais, c'est ça que dans les.
Puis donc tu sais, il est comme il y a quelque chose de pas cool dans son univers.
En fait, tu remarques au niveau de la structure, de la façon que c'est fait dans Ender's Game, ça ressemble beaucoup à Harry Potter. Tu sais, dans Harry Potter, t'as le selection, tu sais, comme tu choisis ta maison, t'as ça aussi. T'as le fameux, tu sais, les autres ils ont pas le Quidditch, mais ils ont l'espèce de pièce, c'est zéro gravité, où est-ce qu'ils se battent dedans, puis tu sais ça. À certains niveaux, ça se ressemble beaucoup. Il y a l'ami gars, il y a l'ami fille. Il y a le gars qui le fait chier. C'est très, très okay, similaire. Ça se peut très bien qu'ils ont pris le livre et l'ont adapté selon ce qu'ils savaient qui fonctionnait au cinéma.
Ouais, c'est possible.
Fait que ça s'est comme perdu dans le chemin, mais ça me faisait penser. C'est comme du Starship Trooper Junior au niveau du film. Qu'il y a une violence, mais en même temps, ça reste pour des jeunes ados. Genre.
Mais je pense que Starship Trooper a été, si je me trompe pas, a été inspiré d'Ender's Game au niveau de la bébite.
Je pense que oui. Ok, là tu le dis, oui, avec les bébites, style Zerg qui a inspiré Starcraft et Zerg.
Ça a été adapté dans le roman de Robert Heinlein.
Starship Trooper. Mais la forme de la bébite.
Maintenant, il y a peut-être un lien entre les deux, je sais pas, mais en tout cas, je sais pas de quand il date le roman.
Peut-être que j'ai rêvé ça parce que ça ressemble beaucoup. Mais c'est
normal, à raison.
Dans Ender's Game, il parle des bébites, puis ça ressemble aux bébites de Starship Trooper.
C'est comme des espèces d'insectes dans Starship Trooper ressemblent aux insectes ennemis dans...
OK, ouais.
Une espèce de similarité entre le hive mind, donc la reine qui contrôle les espèces.
Non, il y a clairement
une influence qui est là, c'est sûr. Ouais.
Mais il n'y a pas le edge qu'il y a dans...
Probablement que l'influence, c'est un film des années 50, que les deux qui ont écrit ça, ils ont vu quand il y avait 9 ans, tu sais, que c'était des fourmis géantes qui venaient de Vénus sur une météorite.
C'est ça qu'il y a de l'art, c'est que c'est un processus qui s'influence lui-même. T'sais, à un moment donné, tu arrives à, mettons, aujourd'hui, puis tu peux dire, OK, ouais, mais ça date de telle affaire, de telle affaire, de telle affaire. Puis c'est comme s'il y avait une espèce de virus mental qui évoluait au fil des années, tu sais.
C'est drôle parce que tu sais, ça me refait penser à Fury Road. C'est quoi la genèse du film post-apocalyptique, tu sais? Tu sais, comme c'est-tu Mad Max qui aurait lancé vraiment ça?
Non, il y a eu d'autres
choses. Tu penses de Romero? Tu penses des films de zombies? Ce serait quoi?
Ça mélange de trucs.
Solent Green. Mais c'est pas apocalyptique.
Solent Green, oui.
Non, c'est une société du futur qui mange des cadavres. Spoiler! Pour le faire, Solent Green.
Non, mais il y a eu... Attends, il y avait eu...
La planète des singes.
La planète des singes, c'est les années 60. Spoiler,
la planète des singes.
68. En 64, il y avait eu... I Am Legend, l'original.
Omega Man, c'est ça?
C'était peut-être
je pense que c'est le titre du livre,
c'était pas I Am Legend, mais c'est pas du tout.
I Am Legend, de celui avec Will Smith, ou est-ce que
non, c'est beaucoup plus tard, mais il y en a dans les années 60.
Tu parles de l'original de cette histoire-là, c'est la même histoire?
C'est très similaire.
C'est quelle fin qu'il avait choisi dans l'original?
La même chose. La même chose, il finit comme étant une légende. C'est ça, d'où le titre.
Ah, OK.
Mais après, maintenant, alors, qui a inventé le genre? Tu sais pas, Mad Max, ça existait déjà avant.
C'est un mélange d'affaires, tu sais, je veux dire, la plaine désertique dans laquelle il faut que tu survives, puis que tu deviens un animal, puis tu vas faire ce qu'il faut pour survivre. Je veux dire, c'est... Tu mets dans le 2 heures demain, puis on aura pratiquement probablement tous les mêmes réflexes. Là.
Ouais, c'est ça. Ouais. Il y avait eu. Attends, j'avais.
Moi, j'ai mon plan. Hein, je...
Mon plan n'est pas aller dans le désert.
Vous avez des réflexes. Moi, j'ai mon plan.
Mon plan ne sera pas aller dans le désert. Ça va être ça, mon plan.
Oui, c'est ça. Déjà, ils choisissent le désert dehors.
Si rien qui s'en apporte, fait. T'es un peu pâle, je réponds pas.
Sinon, c'était quoi? Non, après, non, c'était les.
Si il y avait des tests niaiseux sur Facebook, qu'est-ce que tu fais, Hogan, avec notre truc zombie? Ben, moi, je mangeais toutes mes amies, puis je survivais le plus longtemps. J'avais répondu aux questions de façon honnête, tu comprends? Puis j'avais plein d'amis qui mouraient dans le cimetière.
Mais c'est fou, par exemple, il y a vraiment une, je pense que c'est un reportage de Vice que j'avais vu il y a quelques années. C'est littéralement une. Quelque part, je pense au Midwest américain. Rien sûr, mais t'as des gens qui ne payent plus leurs taxes depuis plusieurs années. Et qui ont des installations.
C'est où exactement?
C'est au Midwest, au milieu.
Quelque part dans le Midwest.
Ouais, aux États-Unis par contre, hein. Fait que si t'es malade, t'es normal. Mais les gens ne payent pas leurs taxes, puis c'est littéralement des survivalistes. Ils se préparent à la fin, tu sais.
Oh
ils ont
God.
Des bunkers, ils, tu sais, je veux dire, ils ont des armes à feu, bien sûr, plusieurs armes à feu. Ils se préparent eux autres, c'est comme la fin s'en vient. C'est un peu. Quelqu'un m'avait déjà dit, c'est un peu égoïste de penser qu'on est la dernière génération de l'humanité. Hein.
Ouais.
Parce qu'il y en a. Théoriquement, plusieurs autres qui vont, en ce qu'on le souhaite, là, qui vont nous suivre. Là, mais...
Ça doit être super le fun chez eux. Hein?
Oh ouais, à Noël, tout le monde a un gun sous la table.
Ça doit être super le fun.
Mais c'était ça, le David Corret, je pense. C'était un peu son trip, lui, la sec.
Qui c'est ça?
La sec est
oui, c'était au Québec, ça, non?
Non, c'était aux États-Unis, ça. David Corret.
Weko, c'est ça?
Weko.
Oui. Mais tu sais, même, il y a des
il était mormon, là, je pense. Ou pas mormon. Voyons, les pires, là, c'est les. Il y en a différents sexes.
Oui, il y a différents sexes.
Il y en a trois maintenant. Sectes. Différentes sectes. Mais tu sais, eux autres, ils ont les. Ils ont toutes, là, les mormons, les baptistes, les témoins de Jéhovah.
Ils sont tous ici aussi.
Hein?
On a tout ça ici aussi.
Ouais, mais ouais, on les a, mais tu sais, c'est comme plus anodin, tu sais, c'est comme une petite bâtisse au coin d'une rue. Là-bas, ils ont beaucoup de monde. Tu sais, quand ils font un party, ils peuvent être 1000 ici, ils peuvent être 5, mettons.
Ouais. Ouais, quand je fais un party chez nous, on peut être 1000 aussi.
Wow, méchant party.
Oh, un grand appart.
Tu peux être 1000 si tu les squeezes,
oh oui,
tu les coupes en morceaux, oh oui, puis tu les pousses un petit peu.
Il n'y a pas de... tout en une solution.
Je suis pas sûre que je vais être à ton party maintenant que j'y pense.
C'est vrai, moi, c'est comme ça que je planifie comme, l'apocalypse.
Moi, 1000 ici, là, ça serait pas mal de viande hachée. Oui, oui, oui. Excusez.
C'est bien, je vois. Non, c'est bien, tu vois, c'est où ça nous amène, Fury Road.
À parler de notre
plan.
Ça nous amène. Mais tu vois, c'est ça, ça l'amène une mauvaise idée dans ma tête parce que c'est bizarre.
Tu parlais de religion, mais il y a un aspect que j'ai aimé dans le film, c'est toute l'espèce de culte autour de l'automobile.
Ouais,
parce que l'automobile, c'est comme le cheval dans le Far West. T'as pas de cheval, t'es condamné à soit mourir ou rester. Au même spot.
Ouais.
Puis t'as comme l'espèce de c'est quoi? C'est la cacane de peinture argentée au début.
C'est
le genre de drogue. J'avais pas compris.
Ils se chrome la face.
Mais tu regardes au niveau même des. Eux autres, ils ont pas des statues de la Vierge Marie ou de Bouddha. Eux autres, c'est des trucs qui se rapportent à l'automobile.
Ouais. Ben, d'ailleurs, c'est anodin, mais c'est cool comme idée. Ils font toujours le signe du V8.
Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça.
Le signe du V8.
Le moteur avec les pistons.
Tu sais, les moteurs, les
pistons. Ah, j'avais
pas
remarqué ça.
Ah, ouais, tu sais, quand ils parlent à Immortan Joe, ils sont là, tu sais.
Immortan Joe!
Ils joignent les mains comme ça en signe de le signe de V8.
Mais c'est pas fou. Si tu regardes les anciennes, les tribus amérindiennes qui étaient ici avant, mais il y avait un culte pour les animaux. Les animaux étaient directement liés à leur survie.
Ouais.
Ben, dans Free Road, ben, c'est le moteur.
C'est ça.
Ça, c'est très crédible. Ça, c'est très, très bon. Ouais. L'espèce de région inventée, le fun.
Ah, moi, je trouve que ce monde, il tient ça, debout complètement. Tu sais,
je pense que.
Mais je vais en savoir plus, moi, univers, sur ce monde. Ma frustration est peut-être de l'intérêt que j'ai eu aussi à ce genre de savoir plus.
Il pourrait avoir un film carrément dérivé qui...
Série télé dérivée.
Absolument. Qui se passe dans genre une ville ou un truc qui reste. Là, ça serait super intéressant.
Mais en même temps, je sais pas, on perdrait peut-être le côté... Parce que tu vas voir Mad Max aussi pour voir un truc spectaculaire. Là on a été servi.
Une expérience différente. On perdrait le côté fantastique.
On est d'accord.
Pense à Battlestar. Vous avez vu la dernière...
Battlestar Galactica?
Ouais.
Ah, c'était magnifique.
Cherchait des ressources. si t'es tout le temps dans le jus, ouais, ouais. Pense ah, à ça dans un monde pour...
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Mais à
c'est...
la Jericho, là.
C'est... Jericho, ah, ça, c'était ouais, presque ouais, bien.
Ouais, pas mal, pas mal.
Ouais, ouais, c'était ABC, là, si je me souviens.
Mais, c'est...
mais Jericho, il y avait un truc cool. Il y avait un truc qui était, puis en même temps, un truc super.
Non, mais le problème avec Jericho, selon moi, c'est qu'ils sont allés trop vite. Il aurait dû nous faire durer une saison complète sur... Tu sais, ils pouvaient le faire, là. T'sais. Même si t'étires ta saison sur, mettons, un mois, mm-hmm. où est-ce qu'ils n'ont pas de nouvelles. Mm-hmm. Tu sais, ça aurait été super intéressant parce que tu peux créer toute une tension, des machins, qu'est-ce qui se passe, des angoisses.
Il y a eu que deux saisons.
L'histoire, la fille enceinte, tu sais.
Je pense, trois saisons.
Deux.
Deux seulement?
Puis après,
puis la dernière est très courte. La dernière est très courte.
Oui,
je ne sais pas si c'est arrivé pendant la fameuse grève ou pas, mais...
Je crois que ça se peut bien, ouais. Ça a été même Battlestar, la quatrième saison a été repoussée de vraiment... Il y a eu un an entre la troisième et la quatrième. Si je me souviens bien, là. Ça a vraiment pris
C'était
temps,
pendant la grève, la fameuse grève.
C'est fou quand tu penses à Battlestar. Le gars, Ronald D. Moore, c'est lui qui a écrit
c'était,
Generation et
Generation
First Contact.
Deep Space Nine.
Oui, c'est ça, mais Deep Space Nine.
Ah, puis First
Contact. Il a écrit Generation.
Okay.
Il a écrit Star Trek First Contact. Et il a travaillé beaucoup. Il était, je pense, showrunner sur Deep Space Nine. Donc, il avait vraiment son mot à dire.
Ouais.
Puis Deep Space Nine, si vous le regardez, c'est très différent des autres Star Trek.
Je l'ai pas écouté, c'est Deep Space Nine. J'ai commencé
à écouter.
Moi, j'ai commencé à l'écouter, puis j'étais décroché assez vite. Oui. Mais il paraît que faut que tu continues.
Ça évolue. Ça reste pas ce que c'est. T'sais.
C'est ça. Il paraît qu'au début, puis Deep Space Nine, tu l'as dans Generation, là, si je me trompe.
Oui, tu le vois.
C'est ça. Il va à la station Deep Space Nine.
Pas dans le film. Pas dans le film, mais tu le vois dans Star Trek. Ouais, c'est ça. Mais ça pour dire que Ronald D. Moore avait une approche qui était très différente du Star Trek classique où tout est beau, tout est bien, tout est des vaisseaux avec du tapis. T'sais. Fait que dans Space Nine, ça va très mal par certains moments. Et un de ses projets était de travailler sur Voyager. Mais à l'époque, les gens de la Paramount, puis je pense que c'est Paramount ou CBS, faisaient bon, ben, tu fais ce que tu veux avec Space Nine, on va te laisser. Fait qu'il a poussé, il a vraiment pu pousser l'enveloppe vraiment, vraiment loin. Après, il a voulu sauter sur Voyager. Voyager, on rappelle la prémisse, c'est un vaisseau qui est pogné à l'autre bout de la galaxie. Il n'y a personne, il n'y a pas d'autre vaisseau de la Fédération. Ça prend 70 ans, 72 ans à revenir où est-ce qu'on est en ce moment. Fait qu'ils sont dans marde, finalement. Et le but, c'était qu'au fil des saisons, ils courent après les ressources. Leur vaisseau est de plus en plus endommagé. Ils peuvent pas complètement le réparer. Mmh. Tu sais, il y a des conflits. C'est quoi? C'est devenu fucking Battlestar Galactica. Yeah, c'est la prémisse de Battlestar.
C'est ça,
parce que Ronald D. Moore n'a jamais travaillé sur Star Trek Voyager. Puis avec Voyager, on venait à la source qui était Next Generation.
Ah, ça, ouais. C'est bon.
Fait que tu vois l'espèce de fil d'influence là, entre les trucs, puis c'est malade. Ah oui, finalement, il a fait ce qu'il voulait avec une autre franchise. Le gars, il avait une idée dans la tête.
Ben oui, ça, je pense qu'ultimement, les idées que t'as, quand t'as des idées, c'est. Tu les gardes, quoi.
Ouais,
tu les amènes quelque part ailleurs, puis c'est ça qui est intéressant.
Je voulais faire une plug tantôt, mais j'ai oublié parce qu'on parle de Free Road, puis de Post-Apo, puis tantôt. Pis il faut absolument plugger parce qu'il n'y en a pas tant que ça au Québec, à part Turbo Kid qui a été faite, mais la BD d'une jeune auteure qui s'appelle Caroline Brault.
Okay.
C'est publié chez une étiquette qui s'appelle Front Froid. C'est un collectif qui fait de la mode bande dessinée de genre. Ça s'appelle Hiver Nucléaire. Ça se passe dans un post-apo dans lequel Montréal. Et ensevelie de neige à longueur d'année, un peu dans le contexte actuel. Le Myland est enseveli à moitié, il y a des zones de la ville qui sont inatteignables, et on suit le personnage de Flavie, qui, elle, est elle livre des choses, en fait, finalement. Elle a un scooter. Une moto de neige, merci. Puis elle se promène dans la ville de Montréal, puis sa job finalement, elle n'est pas une héroïne, elle fait juste comme livrer des bagels, des trucs comme ça. Puis comme l'hiver nucléaire a été fait à cause de Gentilly qui a comme foiré l'écosystème, puis il y a de la neige, mais il y a un peu de la radiation, il y a des mutants, des animaux qui sont transformés. Puis à chaque fois que je parle de post-apo, il faut que je le plug.
C'est quoi le nom?
Ça s'appelle Hiver Nucléaire de Caroline Brault.
Mais c'est la prémisse, okay. C'est formidable.
C'est vraiment génial. Ah,
c'est bon, ça.
C'est super bien écrit.
Ce serait le fun de faire un film avec ça.
Ben moi, je le vois en film. C'est pour ça que j'arrête pas de le plugger parce que mon rêve, c'est qu'éventuellement, ça devienne un film, soit en dessin animé, soit une télésérie. Tu sais, je verrais vraiment une télésérie adaptée. D'hiver nucléaire ou un film mettant en place.
Hiver nucléaire, faut que je cherche ça, que je regarde
c'est
ça, c'est que je
lis super
ça.
Bon. Puis moi, je connais bien Caroline, mais je l'ai connue grâce à la BD. Mm. Si, si ça vous donnait le goût de consommer du post-apo, ce qu'on a parlé plus tantôt, Hiver nucléaire, c'est la chose à écouter, à lire, c'est malade.
Ça me fait penser, tout à coup, ça me fait penser à Temps mort.
Ben, Exactement, il y a un lien à faire. Tendance, c'est une obsession, c'est l'hiver qui tue. Un peu, sauf que Tendance, c'est très tragique. Ça me fait penser, moi, à The Walking Dead.
Ouais.
D'ailleurs, il y a une séquence dans la première saison qui est inspirée de The Walking Dead. C'est littéralement quelque chose que Eric Piccoli a repris de la séquence. Il y a comme une espèce de scène de suicide. Mais Hiver nucléaire, c'est plus humoristique.
Okay.
Mais en même temps,
oui, on sent, il y a de l'humour dans ce que tu
as dit. Il y a de l'humour, puis, mais c'est très actuel. On rit un peu des hipsters parce qu'on est dans le mile. des trucs préconçus, mais en même temps, c'est pas smart-ass, c'est pas prétentieux. Des fois, il y a ce genre d'humour-là fait dans la prétention.
Mm-hmm.
Pas celui-ci, c'est très rafraîchissant. Mm-hmm. C'est super le fun. Puis Flavie, c'est un personnage qui est un peu une femme, un peu plus forte, vraiment. Tu sais, elle a des amis de gars, il y aura jamais de. Tu sais, la relation amoureuse facile entre le protagoniste et l'héroïne, il n'y a pas de ça dans l'hiver nucléaire. C'est vraiment.
Ah, d'ailleurs, un des pièges que Fury Road n'a pas eu, pour revenir.
Ouais.
Ça, c'est tombé dans l'histoire.
Relation de respect, pas d'amour. Ben, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de respect dans l'amour, mais il n'y a pas cette affaire-là dans
Fury
Road. Ouais. Tombe pas dans ce cliché-là.
Ça fait du bien, ça, non?
Ben oui, ça fait du bien. C'est cool, ouais. Ben oui, c'est toujours. C'est ce qu'il y avait. Ah oui, rien de pire que quand c'est 2-0, puis là, tes voix là, qui vont finir amoureux là, à la fin. Moi, j'haïs ça, les histoires d'amour.
Non, mais il y a tellement d'autres choses tellement intenses dans ce film.
Moi, je suis tellement anti-comédie romantique. Il n'y a rien que j'aille plus que... Ah ouais. Moi, tu veux me faire souffrir. Là, je suis tellement pas fifi pour ça. Là. Les mélodrames, j'aime ça, par exemple. Si je vais brailler, ouais, mais je veux pas que ça finisse bien. Il faut que ça finisse mal.
Ouais, mais when Rémi Harry met Sally, t'as jamais trouvé ça bon?
Ben oui, je suis pas faite de glace.
Moi, je veux
là.
Voir une version post-apo avec Meg Ryan dans l'univers de Mad Max. Tom Hanks, Meg Ryan. Non? Tom Hardy, ça serait malin.
Non, c'était Billy Crystal.
Oui, mais je veux dire, oui, mais il y a la relation Meg Ryan, Tom Hanks.
Ah,
Sleepless in Seattle. Ouais. T'as pas aimé Sleepless in Seattle?
J'ai pas vu Sleepless in Seattle.
Ah, ça m'a fait moins d'effet que Harry et Sally. Mais...
Non, Harry, quand on Harry met Sally, on s'entend que c'est drôle aussi. Ouais. C'est pas juste. Il y a comédie romantique. Il y a deux types de comédies romantiques.
C'est celui qui a un peu lancé le genre.
Il y a des comédies romantiques qui sont plus portées sur le romantique. Il y a des comédies romantiques qui sont plus portées sur la comédie. Ah. Celles qui sont plus portées sur la comédie, ça va. Tu sais, je veux dire.
Puis l'autre, t'aimes pas, c'est quoi, c'est le
romantique, quand c'est romantique, là, quand c'est trop romantique, cheesy, là.
Pourquoi?
Je sais pas, je suis pas romantique. C'est pour ça que ça marche pas. ça m'énerve, là. C'est comme genre, ah, OK, en vrai, c'est vous, on le sait que vous vous aimez. C'est fini. J'ai écouté plein de soap opera, en plus. Quand j'étais, pour apprendre l'anglais, j'écoutais les soap opera, puis je comprenais pas. J'étais comme, pourquoi t'es fâché qu'ils soient pas venus souper pour ton anniversaire? Ils travaillent au FBI, il fallait qu'ils sauvent la planète entière. Il y avait raison, tu sais. Comme, genre, c'est ça. Je comprenais pas pourquoi les personnages féminins étaient toujours blessés par les hommes.
Heureusement, c'est pas comme ça dans la vraie vie. Right?
Non, dans la vraie vie, c'est bien plus compliqué. Ça se passe pas comme dans les comédies romantiques.
J'aimerais ça. Moi, des fois, je trouve qu'on est rendu à une époque où est-ce qu'il faut tout le temps passer par une espèce de filtre de cynisme pour avoir la fin heureuse. Ouais. Moi, j'appelle ça la fin à les Simpsons. Tu sais, les films Simpsons vont tout le temps finir super bien. Bah, techniquement bien, mais il faut qu'ils passent par une certaine dose d'ironie. Ils peuvent pas juste se le donner. T'sais, c'est comme si on pouvait pas vraiment être heureux. Oh non, ça c'est notre passé judéo-chrétien, ils croient pas vraiment, là. La vie c'est sale, puis le réchauffement climatique, puis tout. Des fois ça peut juste bien se passer. Aussi,
parce que j'ai aimé Amélie Poulain, là, quand même, là.
J'ai jamais vu Amélie Poulain.
Tu me niaises.
Non, voilà.
Mais voyons donc, t'as-tu vu Délicatessen au moins?
Non. Non, j'ai pas écouté tant de films de comédie romantique, ça explique mon...
Délicatessen, c'est pas le genre. Non.
Mais Amélie Poulain, ouais, dans le genre comédie romantique, ça vaut
mais
plus
voir commence par écouter Délicatessen, parce que c'est le premier
plonge,
film
ça
de Jeunet Carreau.
Dans l'univers de Jeunet et Carreau.
Oui, c'est le premier film que tu vas aimer ça, parce que c'est un bijou.
C'est très, très bon.
C'est voyant, c'est vrai. Juste le générique du début est magnifique. Non, c'est très, très bon. C'est un peu... C'est d'humour noir, là.
OK,
ben, genre,
j'aime ça.
Noir, là. Ouais, okay. Puis c'est justement, il y a comme une sorte de fin du monde qui s'est passé. Il y a comme une
guerre, il y a un côté...
Il y a comme quelque chose qu'on ne sait pas. C'est comme dans une verre, on ne sait pas ce qui s'est passé.
Il y a un côté un peu
Il y a un côté BD aussi, il y a un côté, tu penseras à Tardy ou dans l'époque, tu sais, dans le style. Ouais,
ça devrait te plaire, hein.
Ah oui, c'est ça.
Je suis certain. Il y a plein de trucs que je n'ai pas vu, puis je suis comme...
C'est un petit film super inventif, puis avec vraiment un style très affirmé, tu sais. Puis est-ce qu'on a encore quelque chose à dire, en fait, sur Fury Road? Parce que...
Ah oui, on a parlé longtemps.
Ça fait 2 heures qu'on parle, quasi.
Une petite affaire. Ah oui, une petite affaire sur Fury Road que je tiens à dire, c'est que la musique de Fury Road, je l'ai préférée à celle de Mad Max 2.
Celle de Brian May?
C'est Mad Max 2, là?
C'est Brian May qui avait fait la musique de Mad Max 2, ouais.
C'est très différent. Ouais,
puis c'est Junkie XL qui a fait la musique du dernier, là.
OK, mais le dernier, la musique est vraiment hot, c'est vraiment bon.
Mais alors, chose particulière,
c'est... Tu veux mettre le film, là? Moi, je l'écoutais parce que je faisais ma vaisselle un bout, puis c'était un moment de bing, 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 puis il y avait la musique qui partait, qui arrêtait, puis tu sais, la texture sonore, là, est très, 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 très le fun. Parce que dans Mad Max, j'avais l'impression qu'il y avait pris un gars qui faisait du film épique des années 60, tu sais. Vraiment pas ce que ça donnait.
Ouais, mais les musiques de Brian May, mais les musiques de Brian May, c'était très... Il y avait beaucoup d'hommages à Bernard Herrmann.
C'était plein, un peu.
C'est des vieux compositeurs comme ça. C'est vrai qu'il y a un côté un peu bizarre. C'est des trucs très... T'as des gros trucs derrière comme ça.
Ça m'exagère un peu, peut-être.
Ouais, c'est ça. Puis tu sais, comme des espèces de...
C'est bizarre, mais j'essaie de me souvenir de la musique de Fury Road, puis j'ai rien qui me revient à l'esprit.
Mais tu sais, la guitare qui part.
Il y a un côté tribal aussi.
Oui, c'est clair. Oui, absolument.
Il y a des grosses basses ronflantes qui arrivent.
Ben, comme t'as adoré le film,
c'est très tribal.
Tu le feras jouer sans le regarder.
Ouais.
Puis là, tu vas voir là, que la texture sonore est vraiment quelque chose.
Ah, ça, je suis persuadé, mais on dirait que j'arrive pas à me souvenir, mis à part le gars avec la guitare. C'est super agressant, tu sais. Puis c'est comme un peu un rituel pour lui. Il joue, c'est la chasse, là.
C'est exactement ça.
Ouais.
Puis t'as toute cette imagerie là, moi je trouve ça fabuleux, quoi. J'adore ce monde là.
C'est à quoi ça m'a fait penser, Fury Road? Ça m'a fait penser à Empire Strike Back, dans le sens que Empire Strike Back, quand les gens souvent essaient d'analyser le succès de ce film là versus Jedi, moi j'ai aimé Jedi, mais il y a bien du monde qui l'ont pas aimé.
Moi j'adorais Jedi.
Je sais pas pourquoi le monde bitch sur ce film là, mais bon.
Non plus. Empire Strike Back, ils ont 3 films sur lesquels ils peuvent bitcher dans ce film.
Ils en ont plus maintenant.
4, t'as pas aimé, toi?
Moi j'ai aimé le dernier. Ouais.
Ah, okay.
Je les réserve, mais j'ai bien aimé ça. Non, mais l'antépisode, ils peuvent tout bitcher. Le monde, il y a des geeks canals dans la vie.
Je veux dire, le dernier, tu peux bitcher sur l'un, deux, trois facilement, mais pas le dernier.
Le dernier, il y a des trucs qui sont plus faibles, mais moi, dans l'ensemble, j'ai eu du bon temps. Ce que je voulais dire, c'est... qu'est-ce que je disais, bordel? J'ai perdu mon idée.
Oh, excuse-moi.
Tu parlais de la musique. Attends, faut que je retrouve aussi le fil de truc.
Oui.
On parlait musique et...
Empire Strike Back. Dans le sens que... On essaie des fois d'analyser Empire Strike Back, puis on se demande qu'est-ce qui fonctionne dans ce film-là. Puis tout le long, surtout du côté de Han Solo, Princess Leia, Chewbacca, la gang dans Millennium Falcon, il y a une espèce de... Pour une bonne partie du film, ils sont pourchassés.
Ouais.
Ils sont à deux doigts de se faire pogner, ils sont à deux cheveux de se faire capturer.
Oh, okay. C'est sur la planète, ce là, où est-ce qu'il y a un gros truc,
Oui, c'est Empire Strike Back.
Dans un champ d'astéroïdes.
C'est ça. Il y a, tout le long, ils sont pourchassés. Ça amène vraiment une certaine tension au film. Et j'ai retrouvé le même type de tension quand même dans Fury Road, où il y a une bonne partie du film, mis à part certains moments où on arrête, où on est pourchassé constamment.
Ouais.
Si tu t'arrêtes, tu meurs. Le film est constamment en mouvement, littéralement.
Ah oui, ça c'est vrai
que ça m'a fait penser à ça.
C'est vrai que c'est une qualité. Moi, j'ai pensé à des films comme Duel aussi.
Duel, ça doit être le seul autre finalement où il était constamment en mouvement. Si tu t'arrêtes, tu crois que tu vas mourir.
Cette espèce de mouvement là.
Tout en poursuite. J'ai pas vu.
T'as jamais vu Duel?
Non, le
premier film. Enfin, c'était un TV movie.
Qui était
tellement excellent que du coup ils ont décidé de le sortir au cinéma. C'était le premier film de Spielberg, de Steven
Pour
Spielberg.
Vrai?
Puis c'est
à 23 ans, il a fait ça.
C'est un gars qui est dans un char, puis en fait il y a une espèce de gros truck qui lui court après, puis c'est pas pourquoi en fait. On ne sait jamais pourquoi.
On ne sait jamais. Il y a plein de références à ça.
Là, du gars qui danse en haut, puis c'est Duel.
Fait qu'il est pourchassé, puis il sait pas pourquoi.
Je sais pas pourquoi. À aucun moment, tu ne sauras jamais.
Il poursuit.
Avec ça, j'aime ça.
Ouais, c'est ça. C'est
tiré d'une nouvelle. Quelqu'un lui a amené cette nouvelle.
Ça, c'est super
pur. Un gars qui sort de chez lui puis qui se fait
un autre film, je sais pas si tu as vu le Salaire de la peur de Clouseau.
Chef d'œuvre.
Toi, tu l'as vu, celui-là?
Le Seigneur de la peur, oui. Et puis, il y a ça, et puis le remake de William Friedkin, qui s'appelle Sorcerer.
Il y en a fait un?
Qui est un chef-d'œuvre aussi, oui. Oui, oui.
Puis c'est bon?
C'était un remake, oui. Qui était transposé en Amérique du Sud, etc. Enfin, c'est un petit peu différent de l'original.
C'était déjà en Amérique du Sud, ça.
Mais c'est des truckers qui sont... C'est marrant parce que j'en ai parlé récemment avec Philippe Chabot, justement.
Dans l'original, c'est pas des truckers, c'est des gens qui sont pognés au Mexique.
C'est des...
C'est des Français qui se sont rendus en Guyane française, ou je sais pas trop pourquoi. Mm-hmm. Puis ils sont pognés là parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour prendre le billet pour retourner en France. Puis yeah, c'est ça. Ils sont juste fucking pas bien. Mais ils sont trop beaux, ils sont paumés. Là. Puis c'est Yves Montand qui joue un des personnages. Puis à un moment donné, il y a un gars qui dit « OK, j'ai une job vraiment dangereuse à faire, puis vous allez avoir tant d'argent. » Puis ils disent « Go, on y va. » La job, c'est de transporter deux camions remplis de nitroglycérine d'un point A à un point
B. OK, ben on
t'a une tension permanente.
Puis si jamais, effectivement, il y a un petit bump, puis là, il leur explique, là, il faut que tu conduises à 20 à l'heure. Okay, puis il faut qu'il amène la nitroglycérine parce que là, il y a un feu, puis il faut qu'il serve de la nitroglycérine pour contrôler le feu, en fait. Je ne sais pas trop c'est quoi le truc. Puis tout le long du film, t'es comme genre... genre, tu vois la roue là, qui passe sur un petit truc et tout. C'est le suspense parfait. Ouais. Moi, j'adore
le remake de Friedkin, The Sorcerer, est excellent.
C'est quoi la séquence d'ouverture d'un film de... Parce que je cherche, je ne trouverai pas.
Raconte-nous, en fait.
Rosebud.
Voyons. Orson Welles, Citizen Kane.
Oui, dans le film, c'est quelqu'un met une bombe dans une automobile puis on la suit pendant une
petite... Ah, c'est ça, c'est magnifique, ça.
Je me souviens d'avoir vu ça à l'université, je suis comme, man, c'est fucking stressant quand tu vas sauter le char. Vraiment, tu le vois même pas, il est hors cadre, puis ils font comme un zoom dessus après. Mais c'était vraiment efficace.
Excellent.
En Touch River, c'est super bon, ce film-là.
Dans mon top 10 aussi.
Ouais.
Bonhomme qui finit déchu un peu aussi en même temps.
Orson Welles? L'alcool, la cigarette, trop manger.
Beaucoup trop manger.
Et voilà, on finit dans la déchéance d'Orson Welles.
Je me souviens que dans le temps, il avait fait aussi la narration des émissions spéciales de Nostradamus. Dans les années 90, c'était l'obsession. Nostradamus, il avait prédit plein de shit. Là. Le monde était comme,
C'est la mode.
C'est vraiment la mode.
Je sais, ma mère, elle avait le livre Nostradamus. Mon père l'avait sorti de la bibliothèque. Puis il m'avait lu un bout. Puis en me disant, il prédit quoi, là?
Bon, ouais, c'est ça. Mais il faisait comme la narration d'émission spéciale. Puis c'est lui dans son veston noir, tout habillé en noir. Sa barbe, les cheveux gris, son gros cigare. Puis il faisait de la narration. Mais j'ai associé ça à lui beaucoup plus tard, où j'ai vu une photo de lui plus vieux. Je me suis dit, tabarnak, c'était le gars qui faisait la narration de Nostradamus. Quand j'étais jeune, enfant. Mais oui, il a fini comme ça. Puis c'est quoi qu'il faisait? Il faisait la voix d'Unicron dans Transformers.
Mais il était supposé jouer dans Dune de Jodorowsky.
Il était supposé jouer le duc, ça se peut-tu?
Le méchant.
Le baron, ouais, c'est ça.
Tant qu'il y avait le chef cuisinier qui était engagé.
Ouais. C'est énorme. Énorme.
Ça aurait été le fun qui meurt pas, finalement.
Il aurait peut-être fait encore quelques petits chefs-d'œuvre.
Ouais. Ah, mais c'était... Ouais, je ne sais pas s'il y a une histoire à raconter sur Orson Welles, peut-être.
Fait qu'on arrive au bout, là?
Après
2 heures de conversation, on va
s'arrêter. Je pense qu'on a parlé de tous les films qu'on avait à parler.
On a parlé de tous les films de tous les temps.
Hey, quand même 40 films de science-fiction qu'on a fait, plus quelques séries télé, deux.
Ouais.
Deux ou trois séries télé.
C'est cool.
Deux.
C'est cool. On avance tranquillement, mais on avance, comme je disais au début.
On va être obligé de faire Logan Run à un moment donné, hein?
Ah ouais, faire
Logan Run. On va être obligé de faire Logan.
Oh, Logan's Run, ouais, ça c'est inévitable.
Sous-vêtements dans le futur.
Fait que, est-ce qu'on sait ce qu'on fait la prochaine fois? On n'a pas réfléchi à ça.
Ah non, pas du tout. Mais toi, tu pars pour un petit peu.
Ouais, moi je m'en vais jusqu'à la mi-mars.
Bon, ben. À moins que
tu fasses de quoi sans moi.
Je vais peut-être essayer de faire quelque chose sans toi.
Faites Hardware. Hardware. Fait donc, ça pourrait être cool ça.
Ben, c'est sûr qu'Hardware, il va falloir le faire une fois.
Ouais. C'est dommage que Olivier n'était pas là parce que je crois qu'il a pas aimé du tout Fury Road. Like, il s'attendait à un truc de fou. Il avait adoré la bande-annonce. Puis,
Olivier, c'est une drôle de bébête. Des fois,
ce qui m'avait beaucoup étonné d'ailleurs.
Mais Mais il y avait le même feeling de moi, d'un petit peu mal. Mais on était dans le même beat, moi et lui. Un petit peu trop d'alcool, stress de la financement. C'est des contextes. Il y a des contextes. Mais après ça, tu peux revoir un film puis le voir autrement. Mais donc, je verrai si je fais un podcast on my own avec un invité sur un sujet quelconque. Donc, on va garder la surprise, on va y penser. Voilà, il va falloir que je demande à Nick un film qu'il ne veut pas faire. je vais vous faire un truc sur Tarkovsky, là, Stalker ou Solaris. Là. Mais quoi, tu veux faire Solaris puis Tarkovsky?
Non, ça aurait été intéressant, Marc.
Bon, OK, on je ne vais pas le prendre, je vais trouver autre chose.
On pourrait faire Solaris, puis on pourrait faire en parallèle le remake de
moi j'ai pas vu le remake encore
avec George Clooney,
mais les deux sont partis d'un
de
livre
de Soderbergh, voilà.
Ouais. Je veux dire, ouais. C'est ça, donc ouais. Moi sur le coup j'étais fâchée qu'il y ait fait un remake de Solaris parce que j'étais,
c'était bien d'ailleurs le remake,
l'original est encore là.
J'attendais ton commentaire. Puis après ça, je me suis dit, ben non, justement, qu'il était parti du livre. Puis de toute façon, ouais. Il était un peu bizarre. Il était très somnifère, hein, le Solaris de Tarkovsky. J'aime beaucoup Tarkovsky.
Bon, ben si tu tiens, alors fais-le. Pour mon absence.
Non. Je ne sais pas. On va y réfléchir.
Bon, en attendant, on te retrouve toujours Mystérieux Étonnant, bien sûr.
Oui, Mystérieux Étonnant, tous les lundis, 17h30 sur mystérieuxétonnant.com. Là, on est à choc.ca, la radio web de l'UQAM. Mais dans l'année qui s'en vient, on déménage finalement après 10 ans, parce que le podcast a eu 10 ans il y a 2 semaines. Fait qu'on va continuer, ça c'est certain. On n'abandonne pas nos trucs. On continue dans cette voie-là. Puis sinon, c'est Mystérieux E sur Twitter. Sinon, Facebook, on est super actif, Mystérieux Étonnant. Tapez-nous, vous allez nous trouver. On poste à chaque jour, donc dont le show le lundi. Mais le mardi, il est disponible. Puis on met des trucs tout le reste de la semaine. Fait qu'on continue à jaser avec nos fans. Et dans les... il y a une grosse année. Je ne veux pas vendre la mèche.
Tu nous dis que tu déménages, mais tu ne nous dis pas où, là.
Non, je dis rien. Mais je suis en train de faire une conclusion, mais ce n'est pas ce que vous pensez. je sais ce que vous pensez, mais ce n'est pas ça. Non, mais je veux dire, ça fait 10 ans, puis on a fait le tour, on ne veut pas. Moi, ça fait... Je suis rentré là à l'université, j'avais l'âge que j'ai là. J'avais 24, 25. Puis là, j'ai continué après, mais c'est temps de s'en aller. Puis,
De laisser la slide d'horaire à des jeunes.
Ouais. Ben, tu sais, je veux dire,
qui étudient en sciences politiques, puis qui ont besoin de faire un podcast.
C'est bien correct, en sciences politiques, il en faut. Mais, tu sais, je veux dire, ça fait longtemps qu'on fait ça, puis il y a des émissions, des vieilles émissions qui sont encore là, le 7e Antiquaire, je sais qu'il y a Pute de lutte qui est là. Il y a des bonnes émissions à Choc, mais j'ai l'impression qu'on a comme peut-être... je ne veux pas dire dépasser la station, mais on a peut-être grandi au-delà, puis on veut aller essayer de voir comment on peut faire nos trucs nous-mêmes. Quelque part, ce qui est le fun du podcast aussi, c'est d'avoir aucune attache, mis à part si ça paye. mais sinon...
C'est le grand débat.
Oui, c'est ça. Moi, j'y crois. Il y a bien du monde qui dit je crois le fun. Moi, je crois que c'est possible. Il n'y a personne qui va me dire que c'est pas possible éventuellement de faire de l'argent au podcast au Québec. De l'argent avec le podcast au Québec, si on avait la même mentalité, on ferait pas de télé, on ferait pas de radio, on ferait pas de cinéma. Ouais, comment? Ça sera à voir, mais bon.
Moi, je suis sur Twitter.
Toi, t'es sur Twitter et sur Facebook.
Marilou.garriepi à Twitter.
Non, Marilou Garriepi, il n'y a pas de point.
Il n'y a pas de point?
Non,
mais non, merci.
c'est sur Facebook, c'est Marilouise.garriepi.
Oui, je me mélange.
Voilà. Puis moi, je suis Steady Nick sur Twitter et puis Nicolas Petitlas sur Facebook. Et voilà, et pour le podcast, bien sûr, c'est toujours sur 24quarks.com et sur iTunes, et puis sans oublier de nous laisser un petit commentaire ou un rating d'ailleurs. Et suivez-nous sur Twitter @24quarks et sur Facebook, et pour nous écrire à 24quarks@gmail.com. La prochaine fois, ça sera la surprise, avec ou sans moi, on sait pas, on verra. Et puis un grand merci encore à Benoît, c'était super.
Merci pour l'invitation.
Merci.
Et puis pour le fromage.
Et puis tu reviens quand tu veux. Et puis, merci à tous de votre fidélité. On se retrouve très très bientôt. Bye
merci,
bye.
Merci, bye bye. Program complete. Get away from her, you bitch. Shall we play a game? 24 secondes.